Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Il a fait un malaise, c'est ça?
Sa gueule, c'était pas un malaise, ça.
Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non?
Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors?
Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui, un épisode un peu particulier, car je suis avec Sophie.
Salut, et au cas où, juste pour ma voix, c'est parce que j'ai vu Vermine, j'ai beaucoup crié, et je considère que c'est ce que bon film d'horreur devrait faire.
Bien joué, bien joué. Et on est effectivement avec l'équipe de Vermine, à commencer par le réalisateur Sébastien Vanitschek.
Salut.
L'actrice Sophia Le Safre.
Bonjour, bonjour.
Et Jérôme Niel.
Bonjour.
Et on va discuter un petit peu du film. Comment ça va?
Très bien, excellemment
bien. Très bien.
Très bien, les fêtes, on est dans les fêtes là,
c'est on est en plein dans les fêtes.
On est en plein dans les fêtes, c'est ça.
Enfin,
on a eu nos cadeaux ou pas là,
les gens qui nous écoutent, la nouvelle année est déjà passée.
Ah voilà.
Bonne année à tous.
On enregistre encore en 2023 et à l'heure où on est...
Déjà à 200 000 entrées.
Voilà.
Ah là, trop bien.
Non, on enregistre à J+3 de la sortie.
Ouais, on est sorti mercredi, on est le samedi, ouais.
Et les chiffres sont plutôt bons, mais on en parlera un peu après. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter un petit peu en une ou deux phrases?
Tu veux tenter le pitch, Sophia? On a un petit running gag avec ce pitch.
C'est quoi?
Je pitch trop mal.
Sophia est stressée de pitcher le film.
J'arrive pas à pitcher, mais de manière générale dans la vie, j'ai du mal à pitcher. Même un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Non, mais on va pas se mentir, on n'a pas de secret pour vos auditeurs. On a tout un truc avec le film de banlieue dans lequel, moi je suis fier, mais je ne veux pas que ce soit le fond de commerce de ce film-là. Ouais. J'ai un truc avec les films de banlieue. Je voulais montrer quelque chose de différent de la banlieue. Et c'est vrai que j'ai milité pour que ce soit enlevé sur Allociné, par exemple, dans un immeuble de cité, dans un immeuble HLM, je veux que ce soit immeuble tout court. Donc c'est vrai que je leur ai dit plusieurs fois, quand on pitch, on dit c'est une invasion d'araignées dans un bâtiment, une bande de potes va devoir survivre et basta cosy.
En plus c'est moi qui lui avais dit ça aussi, j'étais totalement d'accord avec ça et du coup en fait, quand on me demande de pitcher je panique et donc je fais, c'est une invasion d'araignées dans un immeuble de banlieue, en cité,
c'est vrai que le mot
avec
banlieue...
des jeunes de cité.
Et après,
je sais pas
on a une boîte à questions iconique où ça fait vraiment bâtiment de cité, de banlieue à Noisy-le-Grand dans 93 et là on fait, allez, il s'enfonce complètement.
Mais oui, mais je panique.
Mais j'ai aucun problème à parler du fait que ce soit un film de banlieue. Juste, je pense que
c'est pas par ça que tu veux qu'on le reconnaisse.
Bah, ça me dérange même pas, tu vois. Vraiment, encore une fois, d'en parler. Mais c'est que dans le pitch pur, je pense que le film se soutient tout seul d'être une invasion dans un bâtiment, quoi.
Si on doit le décrire, en fait, concrètement, c'est un film d'horreur, c'est un film de potes.
Un survival.
C'est un survival. Ouais. C'est parce qu'il y a aussi un côté social. Si on devait le décrire comme ça, ce serait un film d'horreur de potes, survival.
J'adore le côté survival, j'adore le film de potes, j'adore les coming of age movies. Je pense que c'en est un aussi. Ça parle de passage à l'âge adulte pour nombreux de nos personnages. Et après, au-dessus de tout ça, c'est bien entendu un film de divertissement qui est censé vous faire flipper et rire. Et c'est l'objectif de Vermine, quoi.
Peut-être revenir sur avant même l'écriture de ce long. Ce qu'il y a eu dans ta carrière à toi, Seb, et comment t'en es arrivé à faire ce projet-là. Peut-être aussi, il faut juste que je précise un petit truc avant, par pure honnêteté intellectuelle, pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez écouté l'épisode d'aujourd'hui, vous êtes peut-être rendu compte que j'ai pas beaucoup parlé de Vermine, parce que moi, j'ai un rapport avec le film qui est particulier. Je connais plutôt bien le producteur qui m'avait présenté Sébastien au Festival de Cannes 2022, à l'époque où vous cherchiez des sous.
Le financement, ouais.
Et c'est là qu'il m'a dit tu devrais venir sur le tournage et je suis venu à deux reprises, dont une fois pour faire un sujet avec Karim, mais ça aussi on en reparlera je pense plus tard. Donc j'ai un truc où je suis le film depuis longtemps, je l'ai soutenu via Combini, où on en a beaucoup parlé, où j'ai fait une avant-première avec vous, et donc je voulais pas que ce soit moi qui mette en avant le film dans le podcast, étant donné que tout le monde a adoré le film. Mais ouais. Je suis content de moi.
Tout le monde qui a reçu de l'argent par Combini aussi pour dire ça. C'est
ça. Vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. Faux, c'est faux, c'est faux.
Et donc voilà. Et donc un des trucs que m'avait dit le producteur, donc Harry Torjman, il y a un an et demi quand on s'était rencontrés, c'était que je devais regarder tes courts métrages parce que ça donnait un peu une idée de ce que serait Vermine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les différents cours que tu as fait, à quel moment tu les as fait et effectivement à quel point tu trouves que ça il y a un lien avec Vermine?
On va squeezer les 50 qui ont été faits vraiment dans l'anonymat le plus total, mais c'est juste pour si jamais on a des jeunes réalisateurs ambitieux de dire c'est que en faisant des courts-métrages qu'on peut un jour espérer faire un long. Vraiment, je pense vraiment que c'est que ça. Donc il y a eu énormément de cours faits avec mes potes, faits avec pas de potes des fois, juste des choses que je trouvais et tout, filmer tout le temps, faire du montage et essayer de connaître un peu tous les métiers par soi-même. Et après, ça s'est entre guillemets un peu professionnalisé quand mes potes, eux, ont commencé à devenir des chefs-op, des ingénieurs du son et compagnie. Et eux se sont professionnalisés pendant que moi, je continuais vraiment mon petit Super U et mon petit taf à Disney et compagnie. Mais mes potes, eux, se professionnalisaient. Et du coup, on a pu avoir accès. On a pécho des petites caméras sur des pubs de mon chef-op avec des anecdotes assez marrantes où ça tournait du jeudi au mardi. Et nous, le samedi, dimanche, on prenait la caméra parce qu'elle servait à rien. Et après, on la rendait comme si de rien n'était, mais on récupérait juste la carte. Et donc, bon, il y a eu tous ces courts-métrages. Il y a eu... Après, j'ai rencontré une association dans le 93 qui voulait rassembler des artistes musicaux, graffeurs, dessinateurs, tout ça, avec qui j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Mayday, qui a été financé en crowdfunding avec 1000 balles. Et celui-là m'a permis d'aller vers Crow, qui est mon premier court-métrage avec le CNC et compagnie, qui est une histoire à hauteur de chienne sur une chaîne qui est forcée à faire des combats de chiens.
T'avais le CNC à l'époque?
Et il y a eu le à l'époque, j'ai eu un CNC. Ouais, vraiment étrange. Et... on les a plus jamais revus. et après ça a commencé un peu à popper pour moi parce que le court-métrage a fait un peu parler de lui. Donc du coup, quand on rencontre des producteurs, tout ça, mais confinement. Et après, en fait, l'humilité fait que t'es en confinement et t'as capté que les producteurs vont pas t'appeler, les trucs que t'as en développement, ils vont complètement les abandonner. Je l'ai très vite compris. Donc pendant le confinement, je me suis tout de suite dit deux solutions pour moi. Je retourne travailler à Super U Disney ou je refais des cours et je mets mes dernières armes, tout ce que j'ai en court-métrage. Et c'est là que j'ai rencontré Jérôme, parce que je voulais que ce soit porté par quelqu'un qui m'inspire, qui a, on va pas se mytho, la notoriété qui permet aussi au court-métrage d'être vu. On a eu un genre de coup de foudre artistique avec Jérôme, parce que ses envies de cinéma dépassent complètement ce que j'avais vu de lui, moi, personnellement. Je connaissais pas énormément son taf, pareil, on va pas se mytho, c'est vraiment un pote qui m'a dit « voile-le, tu vas voir son énergie, machin », donc ça a matché direct, lui, il a vu mes cours. Et c'est là qu'on a lancé Lourd-métrage, et avec ma team de potes, quoi. On a fait ça pendant une petite année, quoi. Et après, cette petite année de court-métrage, donc ils sont sur YouTube, sur la chaîne Lourd-métrage. Et c'est ceux que tu as vu probablement, je pense. Ouais. Holo, Pas bouger, compagnie. Et c'est là que Harry m'a recontacté en disant « Bon, maintenant, tu as fait ce que tu avais à faire en court-métrage. Peut-être que tu as des idées de long. » Et je suis arrivé avec l'idée de Vermine qui devait être un court-métrage de base. De
ah ouais, ça devait être un court.
Je voulais en faire un lourd-métrage, ouais. Je voulais faire un truc beaucoup plus sec qu'une scène. C'est une discussion entre potes dans un salon. On comprend pas ce qui se passe. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et en fait, c'était une espèce de long travelling autour de 5 potes. On sait pas ce qui se passe jusqu'au moment où la meuf est la seule à avoir le courage d'ouvrir la porte et de dire « Bon, j'y vais, on va arrêter de parler. » Elle ouvre la porte, elle referme derrière elle et on découvre un immeuble complètement entoilé. Elle doit aller d'un point A à un point B. C'était juste ça, en fait.
D'accord.
Et ça devait durer 15 minutes dans la lignée de Holo, quoi, avec quand même un peu d'ambition. J'avais commencé à contacter les bons gars en 3D. Et c'est devenu un long, donc je suis trop content.
Mais c'est marrant.
J'ai une toute petite question par rapport au court-métrage de manière générale et pour vous trois. Est-ce que vous pensez que c'est donc une obligation pour aller vers le long-métrage de faire du court-métrage, mais peu importe, en tant que comédien, en tant que réel, en tant que... tout ça, et surtout, est-ce qu'on est obligé de faire des courts-métrages directement financés ou est-ce qu'il faut passer par la case full débrouille, full on se prend une caméra entre potes? Parce qu'il y en a qui attendent, qui vont écrire pendant hyper longtemps un court-métrage en se disant non, moi je vais le faire financer, je vais passer par une école de ciné. Pour vous, c'est quoi la bonne technique pour se lancer s'il y en a une?
Après, moi j'avoue, j'ai eu un parcours un peu particulier, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école, rien, j'ai commencé avec un long-métrage. Donc je dirais pas non, il faut faire des cours, machin. Moi je sais que c'est possible d'entrer dans le cinéma sans passer par les cours ou par les écoles. Mais après, en tant que réel, je pense que c'est différent, je sais pas, ça dépend.
Toi, Jérôme, c'est particulier, toi aussi, ce que
tu fais. Moi j'ai commencé par Internet. Donc, mais en fait,
Mais tu faisais tout seul.
Ouais, c'est ça. Moi, je rejoindrais Sébastien sur le fait de ce qu'il a toujours dit, c'est de produire quoi qu'il arrive, dès que tu peux produire quelque chose. Et bah, y en a, ça va leur prendre deux ans de décrire quelque chose, mais quoi qu'il arrive, même si le gars il met deux ans à produire, du moment qu'il produit, tu vois, il y en a qui font absolument rien pendant cinq ans et qui écrivent des trucs et qui font jamais le pas, ou tu vois. Donc je pense qu'il arrive un moment, faut shooter, faut tourner. Et faut jouer aussi. Donc même les acteurs qui vont dans des petits courts-métrages gratos, c'est trop cool aussi. Hein. Enfin, moi, si je m'étais dit jamais je ferais ça, jamais je serais allé avec Seb, tu vois.
Ouais,
enfin,
mais toi, il faut sentir déjà, ta place, en fait, et
après,
t'as quand même t'es revenu
aussi.
En
ouais, ouais, c'est ça. Quoi. Parce que je sentais qu'il y avait un truc que vraiment Seb apportait ce que je voulais faire depuis longtemps. Enfin, aller m'apporter ce truc-là. Donc je pense que ouais, tourner, faire, il n'y a que ça qui compte, hein, je pense.
Et oser demander, en fait. Oser ouais. contacter les gens.
Ah ouais, c'est pour moi ce qui est important, ce serait de bosser avec des gens à sa hauteur. Je dis ça alors que Jérôme en fait est revenu à quelque chose qu'il faisait plus, c'est-à-dire aller bosser avec des gars qu'il connaît pas et qui ont pas d'argent.
Ouais.
Mais en fait, je dirais en tant que technicien entre guillemets, si on peut mettre le réal et hauteur dans cette catégorie-là, je dirais bosser avec des gens à sa hauteur, c'est-à-dire des équipes où on se dit ok, lui il est à peu près à mon niveau en chef op, lui en son, en machin, pour qu'on apprenne ensemble. En termes de financement, moi j'ai fait beaucoup de trucs avec 100 balles et tout, donc je dirais c'est pas une histoire d'argent, c'est encore une fois une histoire de débrouille, mais la question elle est plutôt dans comment tu vas les montrer, parce qu'il y a vraiment ouais. deux réseaux, soit on y va en festival, soit on met sur YouTube.
Ouais.
Et moi c'est vrai que j'ai fait les deux, j'ai fait beaucoup de festivals et je me suis rendu compte, Mayday a eu énormément de prix à voyager dans le monde entier et pourtant personne l'a vu, et il m'a servi pas à grand chose, à part de passer à Crow, et Crow pareil, ça allait dans des gros festivals hyper importants, mais pareil ça n'a pas vraiment eu d'impact sur le public. Et quand je me suis juste posé la question, mais pour qui je fais des films en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et moi c'est le public quoi, et c'est ça que j'ai dit à Jérôme, j'ai dit je veux faire des trucs, on se prend pas la tête, le scénario c'est trois lignes machin, on va filmer, on le drop sur YouTube et on en refait un non, deux semaines après.
Aussi tu dis ça comme si tu
ouais, c'est clair.
Un truc genre
non mais après
c'est un truc que t'as fait en une heure ouais. vite fait entre deux et quatre
non mais c'est après la griffe c'est du travail, c'est-à-dire que comme je dis toujours, Vermine c'est l'espèce d'entonnoir et c'est ce qui reste de ouais. de tous ces cours. Et à tous ceux qui veulent faire des cours, comme disait Jérôme, plus tu vas en faire et plus tu vas t'auto-juger et voir ce qui va pas, ce qui fonctionne pas en son, en image, en montage, et tu vas toi-même comprendre ce qu'il faut améliorer quoi.
Et c'est sûr que ouais, ce qui a un peu changé j'imagine par rapport à il y a 10 ans c'est l'immédiateté du résultat que ça peut avoir si tu le diffuses sur les réseaux sociaux, tu vois. Ça, c'est vrai que ça a changé. Moi, le mécanisme des festivals de courts-métrages, ça m'a toujours apparu un peu nébuleux parce qu'effectivement, ça parle de 80 trophées, 80 récompenses et tout, 87 et 117 et 240 récompenses. Et ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bah, il est en train d'écrire son deuxième court-métrage qui sortira dans deux ans et où il gagnera 500 récompense et jusqu'à
verra
et
tu vois, pas.
Et donc
500 euros souvent ouais, c'est si t'es récupéré
ouais,
quand tu fais un festoche.
Je dis que les deux sans doute les deux marchent hein, mais je trouve que c'est quoi ceux qui ont réalisé la main, c'est des youtubeurs, ils,
YouTube, ouais, ils ont mis
ça,
les courts-métrages sur YouTube
ouais. Tu vois j'ai de l'impression que je sais pas, il y a un truc où tu sors la chose, nous c'est allé finalement très vite, jamais assez pour Sébastien, mais au final ça a pris moins d'un an à ce que Harry revienne, voit ce qui se passe, fait ah mais putain mais c'est vrai, parce que Harry l'avait déjà rencontré en plus pour la petite histoire il y a 10 ans avec Mayday, c'est lui il lui avait donné une récompense.
C'était festival Mobi Film Festival.
Ah, Mobi Film
donc
Festival.
C'est une minute, un téléphone.
Ah oui, c'était un autre court-métrage.
Ouais, okay. Ouais, c'était
ah,
en
oui,
2013.
Oui,
ouais.
Mais il t'avait remis un
ouais, j'avais
une récompense
prix spécial du jury.
Donc t'es comme quoi le monde est là, il l'a revu mais via les réseaux sociaux ouais. Donc peut-être que si on avait sorti nos courts-métrages dans les festivals, bah Harry serait pas tombé dessus parce qu'il était pas dans ces festivals. Donc il a juste vu les trucs tourner comme ça parce qu'on a fait un peu de bruit avec.
Non mais parce que pour ceux qui savent pas, les festivals ils
t'empêchent
l'exclusivité,
ouais,
ils veulent
ça.
Pas que le film
ouais.
soit sur internet. Donc si tu vas en festival, bah, personne va le voir. En fait, faut l'accepter. C'est que des gens de festival.
Non mais en fait le mieux c'est de faire les deux, faire ce que t'as fait, c'est-à-dire faire
ouais,
un peu
ouais,
de festival,
exactement.
Avoir un nom. Rencontrer un certain Harry par exemple.
À un moment, accepter que c'est bon, il faut que les gens le voient. T'as envie que les gens le voient, t'as envie
faire
d'avoir leur retour. Mais c'est vraiment, c'est, ça parle vraiment, c'est le cinéma pour moi aussi. Hein. Mm. C'est le cinéma grand public, le cinéma cinéphile. Et comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter les deux ?
Exactement.
Au début de Vermine, il y a un logo CNC.
Ouais.
Il y a un logo Netflix.
Ouais.
Il n'y a pas de logo Canal+.
Non.
Et il y a un logo CNC, mais qui n'est pas le logo qu'on connaît.
Ouais, on aurait dû avoir le logo Alexandre Aja en fait. Parce que clairement, c'est vraiment lui qui nous donne l'aide, la CVS, je crois que ça s'appelle, ouais. Et c'est l'aide aux effets spéciaux. Et du coup, c'est la seule aide publique qu'on a eue. C'est l'aide aux effets spéciaux. Parce qu'on était un film ambitieux, mais c'est encore une fois Alex Aja qui l'a vu. Et je suis trop content parce qu'il est hyper satisfait du film. Et il nous a dit, après l'avoir vu, que c'était le genre de film qu'il voulait montrer en exemple sur comment on utilise cet argent. Mmh. En fait, parce qu'il n'y a pas un euro qui n'est pas à l'image. Et encore, Harry a dû même rajouter. C'est-à-dire que le moindre euro d'effets spéciaux qu'on a eu du CNC est à l'image. Mais du coup, oui, sinon, CNC, on a essuyé que des refus.
Ce qui est dramatique quand on y pense deux secondes. Sur ce que ça veut dire de comment on finance le cinéma.
Ouais, on a eu ce petit retour.
Un petit retour trop rock'n'roll, apparemment.
Ouais, c'était vraiment ouvrir les guillemets trop rock'n'roll. Ça, c'était Île-de-France.
C'est ouf.
Donc, je me suis dit, les gars, ils ont 75 ans et ils sont en train de juger mon film. C'est normal que ça va pas. Ça va. Et après, quand je vois des gens de 75 ans dans la salle, je suis trop content parce que du coup, ils arrivent, ils viennent me voir et ils sont trop contents. Ils ont vraiment vibré et tout. Du coup, je me dis, ils ont un décalage complet avec ce que une nouvelle génération d'auteurs, de réals, d'acteurs, de techniciens ont envie de faire.
Ouais, il y a une petite ironie aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'un renouveau du cinéma de genre français, c'est quelque chose qu'on entend, et particulièrement depuis que Julia Ducournau a eu une Palme d'Or avec Titane. En fait, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas bien le cinéma de genre en France, on a vraiment eu une partie qui s'appelle les French Frayeurs, qui a été une espèce de renouveau parce qu'il y a eu du financement et on a des noms, dont Alexandre Aja, qui au final n'est pas resté en France parce qu'il est parti aux États-Unis parce que la France ne lui a pas offert ce qu'il voulait pour faire son cinéma. Il l'a trouvé ailleurs. Et là, depuis quelques années, on a surtout une espèce d'engouement critique envers le cinéma de genre français. Et c'est tout un paradoxe, parce que quand on voit que les institutions, potentiellement, ne suivent pas le financement de ces films-là, enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi.
Après, le cinéma dont tu parles, je pense que c'est un cinéma qui est un peu différent de Vermine. C'est-à-dire que c'est ce que je disais quand j'ai présenté l'avant-première, c'est un cinéma qui est social avant d'être de genre. Mmh. Alors que Vermine, c'est un film de genre.
Ouais.
Avant d'être un film
social. Tu pourrais dire un peu féministe.
Tu vois, genre La Nuée, si on parle de La Nuée, si on parle même de, je sais pas...
Des Boukerma. Non, mais je sais.
Tu vois, c'est pas le même genre de... C'est plus CNC compatible.
Mais oui, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à savoir si parmi ces réalisateurs-là, et c'est un débat qu'on a souvent dans le podcast, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment envie de faire du cinéma de genre ou est-ce que c'est parce qu'il y a une étiquette cool de cinéma de genre en ce moment et est-ce qu'on a vraiment une vague de réels de cinéma de genre? Et moi, c'est ce qui m'a fait autant plaisir avec Vermine. C'est le fait que ce soit un vrai film de genre, de divertissement et que le social vient après et pas une espèce d'inversion de on va faire des sauterelles qui mangent des gens. En fait,
c'était les premières questions. Justement pour revenir.
En fait, c'est rigolo parce que ton personnage, Sophia, c'est moi avec les sauterelles, c'est-à-dire que je suis pas capable. Donc là, les deux seuls moments où j'ai fermé les yeux, c'est quand il y a deux plans sur des sauterelles qui m'ont semblé durer une heure et demie.
Aucun souci.
Rien à foutre. Sauterelle dans son
incapable. Donc la nuit, je sais pas, j'ai fermé les yeux, mais ça n'avait pas l'air tant que ça, ma cam.
Mais ça revient à ce que tu disais pour le financement. Moi, c'est vrai que c'est un peu une espèce de vague genre fémis qui fonctionne très bien, que moi, je suis incapable de faire parce que vraiment quand je vois ce niveau d'écriture, et on a eu la chance d'avoir un intervenant dans l'écriture qui est venu un peu, c'est pas script doctor, il est venu lire notre script et relever des petites choses et tout, qui s'appelle Jacques Acciotti je crois, et qui a bossé avec Julia Ducournau. Donc c'est vrai que quand Harry nous l'a présenté, c'était un peu je vous ramène le gars du genre en France. Et avec Flo, on s'est heurté à un gars qui comprenait pas du tout ce qu'on essayait de raconter, ce qu'on essayait de faire. On a eu des retours où on a filtré vraiment beaucoup. Il y a eu au final 3-4 trucs qui étaient très intéressants, qui nous ont permis de développer beaucoup mieux nos persos. Mais c'est vrai qu'on a eu un truc de waouh, il y a un fossé générationnel, intellectuel, quelque chose qui fait qu'on pense juste pas de la même manière. Et on avait un truc avec Vermine de dire ouais, mais en fait on n'a pas encore d'exemple en France sur vraiment ce qu'on est en train de vouloir faire, quoi.
Non, mais il y a aussi le fait de faire du divertissement qui n'est pas genre de la grosse comédie. On dirait en fait que c'est un gros mot de vouloir faire kiffer les gens en salle.
En France, c'est assez
avec autre chose,
c'est
de la grosse comédie un peu. Enfin voilà, tu vois. On dirait vraiment que c'est un gros mot, genre vraiment.
Pour revenir sur le financement, dont je disais, il y a un petit logo Netflix au début.
Ouais.
Qui peut laisser à penser des choses qui ne sont pas forcément vraies. On pourrait penser qu'à l'international, il ne sortira que sur Netflix, ce qui n'est pas le cas.
Non.
Mais s'il y a Netflix, c'est que Netflix a participé.
C'est même les premiers à être arrivés dans la boucle. C'est-à-dire que le premier réflexe de Harry avec ce pitch, c'est d'aller voir Netflix pour en faire un Originals. Donc du coup, on va voir Saramé et Sonia Askill là-bas, les nanas qui gèrent Netflix, quoi, les boss. Et elles nous disent, ok, mais on veut lire la 20 scénarios, le pitch et tout, c'est cool, les dessins, c'est cool, les courts-métrages sont cool, mais faut qu'on lise 90 pages. Du coup, en deux mois, on se fait une charge avec Flo, on écrit la V1, et on leur donne, et elles greenlight le truc, elles disent, ok, nous, on est à bord, mais on veut le sortir en salle. Et c'est là qu'il y a eu un
c'est
truc de waouh, ouais. Et du coup, en fait, c'est là que j'ai capté que Netflix voulait faire du cinéma, que la plateforme n'est pas contre le cinéma. Au contraire, c'était une volonté. Elles ont lu un film où elles se sont dit, c'est un film qui rassemble les gens en salle, c'est un film avec du son, c'est un film avec de l'image. Les gens vont vibrer ensemble en salle, on y croit. Et du coup, c'est elles qui nous disent, on vous donne 30% du budget, du coup, et allez choper les 70% en restant, mais on va vous aider, on va vous accompagner, tout ça. Et en fait, c'est allé plutôt vite, parce qu'une fois que t'as Netflix, tout le monde fait, attends, c'est qui, pourquoi, comment, ouais, machin, okay. Et ça fait bababababa. Et en fait, on a dû choisir avec qui on avait envie de partir, quoi. Et ça, c'était trop cool. Et c'est grâce à Netflix. Et je maintiens que je fais pas ce film sans Netflix. C'est pas CNC, c'est pas financement public, c'est pas tout ça. C'est Netflix. Sans Netflix, je fais pas mon premier film.
Je trouve ça ouf. Non, mais ouais. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que je trouve ça ouf. Ouais. Tu mentionnais une V1 de scénario. Il y a eu combien de versions en total?
Bah, tu sais, version, t'as des énormes différences entre ta V1, ta V2, ta V3. Et après, t'as des 4, 5, 6, mais où tu changes un tout petit peu des persos, des trucs, des machins. Entre la V1 et la V2, c'est drastique. Hein. Tu passes d'un film à 200 millions à un film à 4. Vraiment. La V1, on n'a pas de frontières, on est en mode lâcher tout sur le papier, donc du coup on y va, vraiment avec des trucs parfois où on s'est vraiment vraiment lâché, ça devait sortir par le haut de l'immeuble des camemberts, glisser sur le toit, wow, et tout, ouais, il y avait des trucs assez fat, il y avait un hélico, machin, et après, bah du coup on te dit, oui mais tu n'auras pas cet argent Sébastien, et là du coup, bah tu en fait c'est trop intéressant, parce
tu
que
tu l'avais lu cette version,
non,
c'est
ce que
toi tu l'as lu, toi.
C'est ce que j'ai posé comme question, vous avez eu lesquelles, vous?
Moi je l'ai, j'ai
toi,
eu toutes
eu
les versions, ouais.
Ouais, non, moi non.
Toi ils t'ont filé la version où tu savais qu'il n'y avait pas d'hélico.
Non, il n'y avait pas d'hélico.
Mais c'était stylé, il y avait un truc un peu à la Cliffhanger. Là, il y avait des gens, on était accrochés. Non,
ouais, ça descendait en rappel.
Il y a quelqu'un qui glissait.
Il y a quelqu'un qui tombait, c'était Claudia qui devait pas. Ah
ouais.
Voilà,
ouais, allez, c'est ça.
Et c'était Claudia qui, la mère de, qui était la mère de Moussa. Enfin bref, tout un truc. Et elle tombait.
Claudia,
elle tombait.
Waouh, c'est un autre film.
Mais non, mais je crois que V1, il n'y a pas de frères et sœurs. Enfin, c'est tout un truc.
Oui, ça, je savais.
Il y a une idylle entre vous deux.
Mathis,
ouais, Mathis, ouais. Depuis tout petit, il est amoureux d'elle, etc. Et enfin, alors, y a tout,
mais non,
truc.
C'était pas Mathis et Manon.
Non, Mathis
et alors.
Mais Lila et Manon étaient un seul personnage. Lila et Manon étaient un seul personnage.
Ok, d'accord.
Non, mais attends, il reste quoi de cette V1 dans la finale?
Les prénoms, apparemment.
Les prénoms,
les
araignées. Non, et encore, le toi, il s'appelait Krilin. Toi, c'était Krilin. Parce qu'il y a un bagarreur et Raph a DBZ. Et après, on se dit, est-ce qu'on aura les droits de l'appeler Krilin? Je sais
pas. Sans doute pas. Donc, il reste quoi de cette V1 dans la VDF?
Non, il reste quand même pas mal. Il reste tout le huis clos, parce que c'était quand même un truc qui était bien enfermé. Je crois que c'est à partir du troisième acte où ça se bat en cacahuète qu'on n'est pas resté pareil.
C'était des kangourous au début.
Oui,
pas des araignées.
Invasion de kangourous.
Même genre. Kangourous boxeurs.
Mais franchement, ça faisait beaucoup trop peur, les kangourous, parce que vraiment, c'est vraiment de la belle saloperie. Cet animal, ils sont vraiment très dangereux. Très dangereux. Et non, on a gardé quand même pas mal de présentations de personnages. Le premier acte n'a jamais bougé. Ça a toujours été cette intro dans le désert et tout ça. Après, comme je disais, c'est trop cool d'avoir des contraintes financières. Ça rend plus créatif et t'en as tout le long du processus. Et il suffit de bien les utiliser. C'est
mais
vraiment...
ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une phrase qu'on se dit pour se rassurer de bon, j'aurais pas 200 millions, j'en aurais que 4?
Non,
genre l'adversité de devoir se restreindre à enlever des trucs qui ont l'air trop cool sur papier, des trucs que t'as écrit en disant putain, ça va être trop stylé. En vrai, c'est pas plus frustrant aussi?
Moi, ce qu'on m'avait demandé, c'était si on t'avait donné plus d'argent, quel aurait été le film? Et je dis, je pense qu'il aurait été moins bien. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait, parce que c'est toutes ces contraintes qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Parce que moi, il n'y a pas un euro qui n'est pas à l'image, ça c'est une certitude. Peut-être qu'il y aurait plus d'envolées cinématographiques, j'aurais fait des plans où la caméra aurait fait plus de choses, peut-être que j'aurais une grue qui coûte 13 000 balles à la journée pour faire certains plans, on aurait économisé du temps, des choses comme ça. Mais je pense pas que, en CG, j'ai fait vraiment le max pour planquer les araignées, pour avoir un clair obscur, jouer ce truc-là. Je pense que je les aurais pas filmés plein pot si j'avais plus d'argent, parce que c'est pas intéressant, je trouve.
Moi, je pense que sur des petits budgets de ce type-là, je pense que ça peut être qu'un avantage, quoi. Il faut vraiment, vraiment se creuser la tête pour être créatif.
Plus d'argent,
sur des trucs plus énormes. Tu vois, genre un budget de 40 millions et le gars, c'était 60, normalement, là, ça fait
chier. Oui,
ok,
je vois ce que tu veux dire.
Mais je pense que les petits trucs, tu te dis, bon, alors huis clos et tout, vas-y, on réfléchit à la scène, au personnage et tout. Je pense que vraiment, ça peut
en
être.
En casting, j'aurais pris François Civil, Pierre Ninet. Oui, Nenet, oui, ouais, Adèle, c'est ça. Enfin, et j'aurais pas pris eux, quoi.
Romain Duris, et voilà.
J'aurais pas pris eux, quoi.
Et toi, Jérôme, quand tu reçois la V1 du scénario qui part dans tous les sens, tu dis oui direct.
Ah ouais, moi, je dis oui. Mais je savais que ça allait pas être la V1, la VDF.
Ouais,
tu
savais que ça allait pas du tout être.
Enfin, entre Sébastien, que je connaissais depuis maintenant plus d'un an, et Flo, depuis 10 ans, moi, c'était les yeux fermés sur n'importe quel animal.
Même un kangourou.
Même un kangourou.
Alors du moment que c'est pas des vrais sur le tournage. Parce que voilà. Sinon, c'est trop chaud.
Alors que toi, mais... Sophia, quand tu reçois un scénario,
non,
bah toi, c'est plus compliqué.
Ah oui, mais toi, c'est
mais en fait,
truc,
moi, Elisa, ce qu'on a reçu, Lisa Niarco, dont c'est le premier film, hein, Vermine, ce qu'on a reçu via nos agents, faut savoir que c'est pas le pitch de Sébastien. C'est pas celui qui l'a envoyé, c'est un bouche à oreille du producteur au directeur de casting, à nos agents.
Le téléphone arabe.
Voilà, le téléphone arabe, grosso modo. Et nous, ce qu'on reçoit comme pitch, c'est invasion d'araignées géantes en HLM. Donc, moi... non mais voilà, moi j'ai dit à mon agent, je l'appelle et je fais coucou, bah non. Moi, ça m'intéresse pas trop.
Coucou, bah non.
C'est qui ce Sébastien Vanitschek ? En plus, je tape son nom,
il y a rien,
tu vois. mais en fait, j'ai fait l'erreur de pas aller checker ses cours. Et je suis allée voir, j'ai vu juste sur sa page, en fait, j'ai capté un peu déjà la DA du personnage. Ouais. Et j'ai vu, je crois, le trailer de Pas bouger. Et là, j'ai fait OK, vraiment pas mal. Et elle m'a dit, écoute, fais confiance et tout, rencontre Sébastien. Je suis allée au casting, chose qui n'arrive pas souvent et qui est trop bien. Sébastien
T'avais
était présent.
Pas lu le scénar quand tu
non, pas, en... on l'avait pas, je l'avais pas reçu.
T'avais okay. pas reçu le scénar.
J'avais pas reçu le scénar. J'avais un
invasion
d'araignées géantes et mes deux scènes de casting à préparer. Ouais. Une scène, pardon, de casting à préparer. Je crois, ouais, une scène. Et je savais, non, je savais pas. Et je suis arrivée et je devais faire une impro et ma scène. Voilà, bref. Et du coup, je rencontre Sébastien. Et là, c'est instantané. En fait, déjà, moi, je lui raconte le pitch. Il est choqué. Le pitch que j'ai reçu. Il est vraiment choqué. Il me dit, non, laisse-moi te raconter mon film, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de montrer. Et là, c'est instantané. Moi, je capte qui est le personnage. Je capte ce qu'il a envie de faire. Je capte ses envies de cinéma. Je capte Vermine, ce à quoi ça va ressembler. Et là, moi, je suis direct partante avant même de commencer à jouer. Et là, je joue et il y a un truc qui se passe de connexion où tu sens que ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas, même avec des acteurs, tu peux très bien t'entendre avec eux. Mmh. Et en fait, dans le jeu, il y a un truc où c'est plat, où ça ne prend pas, tu vois. Et d'autres fois où tu ne sais pas pourquoi, tu ne connais pas la personne et ça va prendre. Ouais. Et là, c'était le cas. Et j'ai fait mon impro, je crois que tu as kiffé, je l'ai senti. Je me suis dit, ah yes, je crois que j'ai bien réussi le casting.
Pour l'anecdote, l'impro, c'est elle est enfermée dans une salle, dans une douche. Il y a une énorme araignée sur la poignée, elle ne peut pas sortir, donc je l'ai enfermée dans un espace très restreint pour pas qu'elle puisse trop gesticuler. Elle doit appeler une copine, et il y avait ce qu'on appelle une réplique, donc qui en général est un étudiant en cours Florent ou quoi, qui vient sur la journée, qui sont toujours très cool. Je l'ai mise très très loin dans la cour, et j'ai dit, vous vous appelez vraiment, et...
On s'est échangé nos numéros de téléphone, comme ça, et elle m'a appelé pour la scène, et moi j'étais dans la salle de casting, il m'a dit, tu restes dans ce coin-là. Tu fais comme si t'étais enfermée dans ta salle de bain. Et
je chuchote à la réplique, je lui dis, par contre, quand elle va t'appeler, faut que tu la fasses monter en pression. Toi, t'es au grec, en bas, avec tes copines, et en fait, t'en as rien à foutre. Donc, tu rigoles, tu parles avec tes potes, machin. Okay. Des fois, tu fais, attends, excuse-moi, je t'entends pas. Mais qu'est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre pour qu'elle, elle pète un plomb. Et du coup, en fait, ce qui avait été trop cool avec Sophia, c'est le côté que je veux dans le film qui est drame, horreur et... très drôle, parce que c'est très très drôle de voir une meuf autant flipper et en même temps elle joue rien de drôle parce qu'elle est à fond dans sa scène d'horreur et elle commence à pleurer, à trembler et elle pétait un plomb sur cette réplique qui était de l'autre côté en train de lui dire j'ai pas le temps et tout ça. Et c'est vrai que c'est instantané, mais en plus je l'ai vu en troisième ou quatrième. Mais okay. Après, j'en ai vu une trentaine, j'ai vu 30 personnes derrière. Et c'est vrai qu'une fois que tu as quelqu'un en tête, les 30 autres personnes, bah, tu es toujours en train de te dire « Ah putain, mais ça… » Mais tu te dis « Je ne peux pas bloquer mon choix sur la troisième personne que j'ai vue. Ouais. Je suis obligé de continuer à voir des gens. » Mais c'est vrai que c'était assez instantané. C'est pour ça qu'il y a certaines fois, j'aimais bien être là au casting pour filmer moi-même et tout, parce que je savais que ça allait être un film d'énergie, un film où moi, je cadre beaucoup et j'allais vouloir être avec eux. Et il fallait que ça matche aussi en énergie à cet endroit-là.
Ce qui est intéressant, c'est que le film, c'est une bande de potes. C'est construit en bande, mais... souvent, en écriture, on voit qu'il y a un personnage principal et des gens qui gravitent autour. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'ils se complètent tous et qu'ils ont été pensés en un seul bloc. Est-ce que c'est le cas et comment on joue, comment on intervient quand on sait qu'on est une partie d'un ensemble et pas genre juste des sidekicks ? Voilà, c'est un peu une...
Très bonne question. Moi, j'ai essayé de faire le max à l'écriture, mais c'est vrai que Et au casting, j'ai voulu choisir, comme je dis tout le temps, les meilleurs acteurs, mais aussi les meilleurs êtres humains possibles, parce que je savais qu'il fallait donner plus que juste être bons acteurs. Fallait s'emmener les uns les autres au-delà de nos limites. Ça allait suer, ça allait vraiment saigner, ça allait se donner. On allait faire des plans séquences sur 5 étages, etc. Et du coup, bah, après, c'est leur taf à eux. Ils en parleront mieux que moi, mais on a beaucoup bossé en amont, en lecture, et on a constitué cette bande ensemble. Et ils ont modifié eux-mêmes leur texte. Enfin, vous pouvez en parler mieux que moi, quoi.
Bah oui, il y a eu plusieurs phases de lecture où on était ensemble tous les à lire le scénar, et du coup avec Florent Bernard et Seb présents dans la salle pour faire les modifs selon nos réactions, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un côté naturel de tout le groupe, ça a été très très naturel. Donc ça a été le flair, j'imagine, de Seb aussi et de ses équipes à trouver la bonne association des acteurs, des comédiens, humainement parlant, hors du tournage, quoi. Ça a vachement joué et aujourd'hui encore,
ça joue à Mario Kart.
Aujourd'hui encore, ça joue à
Mario Kart, j'allais le dire.
Non, mais pour le coup, tu vois, c'est assez rare, mais ça a vraiment beaucoup marché. Moi, je connaissais pas particulièrement Finnegan, mais on s'est vraiment beaucoup marré tous les deux, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui soudent, en tout cas, où l'énergie du groupe d'acteurs et des personnages prend tout son sens, finalement. Que ce soit dans les journées difficiles de tournage ou même d'acting difficile où là, il y a une grosse scène à tourner. Donc, ça va être difficile pour les personnages comme pour les acteurs et où on est là tous ensemble, quoi. Et des scènes où jusque le réal qui nous filme lui-même, donc Seb, prend la cam et donc tout le monde est en transpiration. Tu vois, où il y a vraiment... Et ça aussi, avec la technique, les ingé-sons, la déco qui se casse la tête pour faire les trucs. Allez, on la refait. Ok, vas-y, attends, je remets un peu de fausse toile et tout. Donc, en fait, on est tous vraiment dans le même bateau, quoi. Et ça, c'est puissant. Il n'y en a pas un qui est derrière le combo comme ça. Ouais, vas-y, on la refait. Pour mettre en place, tout le monde était au tacard. Derrière Seb, quoi, tu vois.
Très très laid, très cerné pendant un mois et demi, quoi.
Voilà.
Ouais. Tous pareils, quoi.
La première fois que je suis venu sur tournage, je sais pas si tu te souviens, c'était un des moments où vous devez courir dans les escaliers.
Ouais.
Et j'étais venu c'était Aubervilliers,
ouais,
c'était à Pantin.
Aubervilliers qu'on tournait l'immeuble, ouais. L'immeuble,
oui,
désaffecté là.
Ouais. Et ben je suis venu ce premier jour-là, et après je suis venu le dernier. Et en fait, je suis venu là, et en fait, je vous regardais dans le combo, et vous passiez votre journée à courir 2 étages,
ouais.
C'est bon, cut, on redescend,
ouais.
vous recouriez,
ouais,
2 étages, ça avait l'air hardcore.
Ouais. Ouais,
mais je pense que c'est lui qui a vraiment morflé, parce que lui, il portait une caméra en plus de...
Une petite caméra de 20 kilos, mais j'avais envie de le faire, ce truc-là. Enfin, c'était,
ouais.
Ça faisait partie,
ouais, ça pète trucs. Un peu. Ouais.
Petite caméra de 60 kilos. Ouais,
bah
ouais,
après,
ouais.
Je soulève 120 kilos en développé couché, donc après, j'ai pas envie. On n'est pas là pour parler de ça, mais...
On n'est pas là pour parler de ça.
Non, mais c'était surtout que j'avais envie de faire un plan séquence et qu'on a commencé pour l'anecdote, et puis t'étais là, t'as dû le voir, avec un Steadicam.
Ouais.
Donc on fait, il y a 4 étages, un truc comme ça, avec le Stead, et je sens pas l'énergie, je les sens pas eux et tout, et il y a un moment où tu te lèves et tu fais, vas-y, mets-moi la caméra et tout, et on met pas de Stead. Et le spectateur, il va se prendre les tremblements du truc, on va courir avec eux, on va être au plus proche d'eux.
Ouais.
Et les mouvements vont être brutaux, mais pour moi, je savais aussi ce que je mettais en son et en musique derrière.
Mmh.
Et du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où je prends la cam et qu'on commence à le faire ensemble, c'est que d'un coup, en fait, ça rigole moins et, ça va ça va se connecter en énergie les uns avec les autres. Le flip de l'un va toucher l'autre, qui va machin et tout ça... Et comme l'idée était de filmer ce plan séquence en allant les chercher les uns après les autres tout en montrant ce que Jérôme doit faire pour garder les araignées loin, et ben, y avait tout un truc qui faisait que ce plan séquence marchait beaucoup mieux. Ça faisait flipper les vieux de la vieille qui sont sur le plateau, qui disent « Mais ça va trop trembler, spectateur, machin.
»« Mais comment on va faire ?»
Et voilà, et tu verras, tu vas m'appeler et tu vas devoir stabiliser. Ça va lui coûter de l'argent. On n'a rien stabilisé du tout, on l'a laissé tel quel. En tout cas, c'est ce dont parlait Jérôme. Et toi aussi, tu es très sensible aux énergies que les comédiens s'envoient sur ta scène,
oui,
bah, à toi. Tu avais besoin d'être emmené par... Il y a une scène particulière où c'est vrai que Sofia doit aller un peu loin en termes de dramaturgie, on va dire. Et on a commencé avec Jérôme, puis Théo, puis ensuite on est passé Sophie, parce que tous s'envoyaient de l'énergie ils se touchent les uns les autres parce qu'ils ont une empathie les uns pour les autres, parce qu'ils s'apprécient en dehors du tournage. Donc du coup, de voir quelqu'un aller dans une
émotion...
Quand
je vois Jérôme et Théo dans l'état dans lequel ils sont pendant cette scène-là... Je joue, évidemment, mais il y a une partie de moi qui est vraiment profondément touchée de les voir comme ça, en fait.
Et ce truc d'énergie, il y a aussi un revers de la médaille. Tu m'en parlais il y a 2-3 jours. Tu me disais qu'à l'avant-première parisienne à l'UGC Normandie, il y a eu une scène où le public s'est marré qui est pour toi pas drôle.
Ouais.
Mais avec Jérôme, on est d'accord pour dire qu'il y a un truc dans l'intention qui est drôle. On peut le dire, c'est pas vraiment c'est un spoil. C'est un moment où le personnage incarné par Jérôme est dans le couloir. Il dit allez par là-bas. Vous ouvrez la porte, il fait. Il y a un.
Ouais, commence à avoir de la paranoïa les uns envers les autres, et Jérôme doit garder loin de lui un des habitants de l'immeuble.
Ouais, Et moi, je refuse dans un premier temps. Je dis non, mais on va aider ce gars-là. Et Théo me dit non, il a peut-être été piqué. Et donc, je fais ok, vas-y, rentrez chez vous.
Et dans le ok, vas-y, rentrez chez vous, il y a un changement de ton, il y a un truc d'énergie qui fait que c'est un peu marrant, mais toi, tu l'avais pas construit comme ça.
Non, voilà, c'est la première fois, on a fait que des avant-premières où ça se marre pas du tout, c'est une scène hyper intense.
Mais moi, je me suis marré en projo sur cette séquence.
Je crois que c'est Jérôme aussi qui acquiert le public à sa cause très vite. Hein. En l'occurrence, UGC Normandie, il faisait ça, les gens rigolaient, quoi. Donc,
Alors, tu as fait un truc qui n'est pas très radiophonique.
Oui, pardon.
Il s'est gratté la barbe.
Voilà.
Ce qui n'était pas hyper drôle en soi, mais.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'est pas drôle. À UGC Normandie, ça marche vachement.
Si c'est toi qui le fais, en tout cas, oui.
Ou, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc dans le.
Mais parfois, je pense que inconsciemment, tu as été emmené par l'énergie de la salle, tu vois.
Ah, peut-être.
Moi, ça m'arrive beaucoup au cinéma, tu vois. Si je regarde le même film tout seul chez moi, je vais faire. ce sera le max, tu vois. Et de temps en temps, je rigole avec tout le monde et ça m'emmène, quoi.
Ouais, mais on en avait parlé un petit peu avec Arthur de ça pour avoir bossé en festival de genre. J'ai vu plein de films, des fois des méga méga hardcore et où il y a un fou rire général. Et des fois, c'est quand le film est trop tendu, il y a une espèce de baisse de tension et les gens rigolent au premier truc un peu léger.
Ouais, et tu le sens dans la salle et toi c'est aussi, tu vas rire alors que chez toi, en fait, pas
c'est
du
ça. Genre, chez soi, on est capable d'avoir une espèce de tension constante, mais quand on est en tension avec beaucoup de gens autour et que ça crée quelque chose de très palpable, la moindre. Mes moindres pointes de légèreté devient hilarante.
Moi aux enterrements, je me tape des barres.
Mais c'est le.
Il y a un truc.
C'est le même phénomène. Le premier film où moi j'avais vécu ça, c'était sur Hérédité. Et vraiment.
Pas marrant comme film.
T'as ri comme ça au ciné et tout.
Moi non, mais il y a des gens qui sont mis à rire. À la fois, mais sur un truc
mais
à la con.
Sur quelle scène?
Je crois que c'est quand il y a un ballon qui tombe, et qu'en fait ça devait être une tête, et il y a juste un ballon, un plan ballon. Et en fait, ça a fait rire quelqu'un, et ça a été général. C'est-à-dire que la personne arrive à faire rire tout le monde.
Ah, c'est ça.
Parce que d'un coup, il y a un. Oh putain, on peut relâcher la pression, c'est maintenant.
C'est ça l'expérience de la salle que je trouve trop bien aussi. C'est que dans un film d'horreur ou tendu, il y a un truc où tout le monde a envie de vivre ça ensemble, il y a un truc communautaire qui est trop cool, quoi.
Avec Sophie, on avait quelques idées de refs. Alors, bon, la vérité, c'est que moi, je les ai.
Tu les as.
Je les ai, donc on va. Mais on voulait quand même te dropper quelques refs pour voir si c'est des trucs que tu avais en tête ou pas. Si c'est des choses que vous avez ressenties à la lecture du scénario. Bien sûr. Sophie, toi, t'en avais une qui était, pour le coup, un peu évidente, je pense.
L'exorciste.
Pour l'intro.
Ouais.
Il y a l'exorciste, je crois qu'il y avait. Il y a La Colline aussi. Il y a quelques films comme ça où on te montre d'abord ton monstre, d'où il vient, pourquoi, le pourquoi du comment. Et j'avoue qu'il y a un truc, sans aller directement automatiquement à l'exorciste, il y avait un truc de respecter les codes de d'où vient mon monstre. Et plus c'est exotique, entre guillemets, et plus ça raconte quelque chose. En l'occurrence, moi, il y a un parallèle évident aussi entre ces personnes qui sont arrachées à leur terre natale pour être emmenées dans des bâtiments justement ultra clos et fermés. Mais ça peut être considéré comme une ref.
Parce qu'en plus, on passe vraiment, c'est la même structure, c'est extérieur, exotique, on va dire de manière générale. Huit clos. Donc c'est bon, je l'ai. À toi.
Moi, je triche parce que je le sais, mais je voulais t'entendre parler de Alien, évidemment.
Ouais, Alien, c'est le côté low class, tu sais, classe ouvrière, un peu loser, qui se retrouve à devenir extrêmement héroïque. Les dynamiques de groupe. Les gens qui n'arrivent pas à se dire les choses, les problèmes de dialogue entre guillemets qui créent de la tension. Le monstre qui s'invite là-dedans, le huis clos, bien évidemment. Et après, les gens me parlent d'Aliens parce qu'il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, moi, je suis plus vers Alien 2. J'ai pas d'argent, quoi. Je dois pas le montrer, ce putain de monstre. Comment je fais? Tu vois, c'est la débrouille. Après, Ridley Scott.
Après, alors pour le coup, budget réduit, t'as dû faire des économies, blablabla. T'es généreux quand même, hein. En araignée, hein.
Ouais, carrément. Bah, il y a eu. On avait un 70 plans, je crois, qu'on doit être vraiment. On m'a limité à 70 plans, et ce qui est normal, tu vois, avec le budget qu'on avait. Et c'était essayer de rentabiliser au max ces 70 plans. Donc, comment je fais? Après, on va pas se mentir, MacGuff a fait beaucoup plus que ce qu'il devait faire.
C'est vrai?
Ils ont été ultra généreux. Je crois qu'il y a un truc où ils avaient 500 000 et ils ont fait l'équivalent de 800 000. Donc, il y a 300 000 qui vient de MacGuff eux-mêmes, qui ont dit vas-y, nous, on mise sur ce film-là. Et franchement, je les remercierai jamais assez. Ils avaient envie de faire un truc qui tabasse. Donc, du coup, on a un peu plus à l'image, quoi. Ça, c'est sûr.
Toi, Sophie, t'as une autre ref?
C'est sur une scène, The Grudge.
Bien joué.
C'est vrai?
Allez!
Bien joué.
Ah, purée!
quasi plan pour plan.
Mais merci,
Madame Zhao.
Bah oui.
Ouais, bien joué. Ah. Très très bien joué.
Ah, bien ouais.
Je me retrouve la veille du tournage à. Ils viennent de se checker.
Elle vient de checker un mec qui n'a pas de micro. Je précise. Parce que je fais l'ingé son depuis tout à l'heure, donc les auditeurs ne savent pas
un que t'es là.
Qui elle a checké. Ouais.
Je pensais que j'allais checker tout le monde, faire un tour de la table, danser et tout.
Non, non.
Et bien joué, je me retrouve la veille du tournage avec cette scène où je me dis, ok, c'est une des premières d'horreur qu'on va faire. Alors, Ching Xin, c'est dur à prononcer, c'est l'actrice qui s'occupe de ce rôle-là, parle vraiment pas très bien français. C'est une actrice de théâtre chinois qui est extraordinaire, qui fait des choses avec son corps et avec son visage qui m'ont frappé tout de suite. Je me suis dit, ok, je dois bosser avec cette personne-là, qui a une intelligence émotionnelle vraiment très importante, où on me parlait qu'en énergie. Genre, c'est-à-dire que je pouvais pas lui dire des mots genre, oui, regardez en haut et nanana. J'étais que dans la gestuelle à lui montrer des choses avec mon visage pour essayer de l'emmener où je voulais. Et elle était très réceptive à ça. Donc du coup, je me dis, ok, je vais baser un personnage qui est quasi mutique et je vais baser tout sur son expression faciale. Et ben, je me refais cette scène d'intro où ça va dans le grenier, etc. Et je vois plan pour plan que le Sam Raimi, il est imbattable et je commence à faire, est-ce que je vais pas me taper un plan pour plan et ceux qui l'auront, ça va être classe. Et les autres, ils se diront juste, c'est bien foutu. Et effectivement, il y a ce truc de la contre-plongée, le quand elle enlève le faux plafond, et puis après le passage de la petite tête avec l'étoile d'araignée, etc. En l'occurrence, c'est une version de Sam Raimi, pour The Watch, mais bien joué, ouais. Bien joué.
Sam Raimi qui a vu le film par ailleurs.
Sam Raimi qui est c'est la mif.
C'est le sang.
C'est le sang, Sam Raimi.
C'est le sang de la veine.
C'est le sang de la veine.
Moi une autre ref, mais pareil je triche parce qu'en fait c'est une ref que Sébastien m'a dit, mais c'est Green Room.
Green Room, le huis clos, la tension, le groupe de potes enfermés qui va devoir survivre face à Magneto. voilà, pour ceux qui l'ont pas, c'est comment il s'appelle, Patrick Stewart,
c'est Charles Xavier, c'est pas Magneto.
C'est pas Magneto. Ah oh là 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 là, pardon, ah là pardon. Là. Charles Xavier, tout à fait. Oui, Magneto, c'est Gandalf, oui. C'est ça. Et du coup, qui joue un nazi, quoi. Et film ultra intense de Saulnier, dans le noir, on va se débrouiller avec ce qu'on peut.
Et c'est ce qu'on disait avec Alexis tout à l'heure en micro avant que vous arriviez. Lumière verte aussi, Green Room à fond.
Ouais.
Et la lumière du couloir aussi.
Ouais, ouais,
qui est,
carrément.
Qui est bah,
comment t'éclaires l'obscurité, les blocs de secours, les fumigènes, toutes ces choses-là, t'essayes de sortir les petites idées. Mais en l'occurrence, Green Room, ouais, c'est le seul devoir que je leur ai donné aux acteurs, parce que vraiment, la dynamique de groupe est extraordinaire dans ce film, quoi.
Sophia, Green Room, c'est bien.
Elle l'a pas vu. Voilà, elle est mytho depuis le début du tournage. Elle
est trop bien.
En vrai, c'est tu kifferas.
En plus, c'est les vacances là, regarde-le là.
Non, mais j'ai commencé un peu à me mettre. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas une énorme culture de films de genre, films d'horreur et tout. J'ai commencé un peu à m'y mettre grâce à Sébastien. J'ai vu depuis It Follows, Annihilation. Quoi ? C'est pas gentil.
Tous ceux que toi, tu connais par cœur. Maintenant.
Quoi d'autre ?
Crime.
C'est tout. J'avais déjà vu les aliens.
C'est pas mal.
T'as une dernière rêve, Sophie ?
J'hésite sur laquelle. J'ai envie de dire Candyman.
Même pas vu.
Ouais. Mais non.
Ah ouais, ouais.
Incroyable.
C'était quoi ?
Bah en fait, Candyman, c'est le premier film vraiment qui
le
va...
Le premier, hein, pas le remake du coup.
Alors moi, j'aime bien le remake aussi,
ouais,
mais
aussi
ça,
le remake,
ça,
mais
ça, ça
fait
ça
très
marche.
Creepypasta.
C'est exactement ça.
Ah ouais. C'est pour le côté film d'horreur sociale, mais qui est avant tout un divertissement parce que c'est un film d'enquête, mais c'est le premier qui va pas être uniquement dans la métaphore, mais placer aussi... La valeur sociale d'un film.
Ah, mais
dans
alors, t'as tout à fait juste dans le sens où Jordan Peele était jamais trop loin quand on a commencé à écrire, en tout cas avec Get Out, de regardons Get Out, voyons comment de base on a juste un bête de film où on s'amuse, etc. Donc oui, bien évidemment que ça, c'était là le côté on fait du divertissement mais on va raconter quelque chose, ouais carrément.
Bah regardez tous Candyman, c'est un chef d'œuvre.
Candyman, c'est en gros un peu l'équivalent de La Dame Blanche. Ouais. Tu te mets devant le miroir, si tu t'appelles Candyman, trois fois il vient, et c'est un grand homme noir qui a un crochet, et parce qu'il a le visage à moitié bouffé par des abeilles et du miel, tu
mais
vois.
Il faut savoir que donc, c'est une journaliste qui fait son enquête, mais que du coup elle va enquêter dans une espèce de cité un peu désaffectée, et voilà, il y a une manière de filmer, c'est un des premiers films qui va filmer d'abord la ville, puis l'enquête, puis le propos social, genre c'est un film...
Okay.
C'est...
Et c'est sur la gentrification. Et
ah ouais,
ça.
D'accord. Ouais, okay,
ouais, le 1
ouais.
est déjà sur la gentrification. Le deuxième, c'est plus que le propos. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins bien. Mais okay. je vous conseille à tous Candyman.
Okay. Ouais, carrément.
Moi, j'ai une dernière ref, mais parce que je n'ai pas parlé, je sais. Enfin, si, je voulais parler de rec, mais je sais que non. Mais pour moi, je pense qu'inconsciemment, tu avais du rec en toi.
Ouais, bah forcément. La quarantaine dans l'immeuble et bah, devoir juste utiliser l'espace. Ouais, bah, forcément. Mais je l'ai revu juste après. Je voulais pas le revoir pendant ouais. la production.
Mais j'avais un autre film, j'en ai pas parlé. Est-ce que tu avais vu ou est-ce que tu avais en tête Attack the Block?
Pareil, alors Attack the Block, je l'ai carrément découvert après.
D'accord.
Parce que forcément, on m'en parlait beaucoup. Donc bah, j'étais trop flatté logique. Parce que vraiment bête de film.
Ouais.
Mais il n'est pas là au moment de la construction. Mais c'est vrai que d'un coup, je vois ouais, que tu as carrément la banlieue, tu as les personnages, tu as même la police et tout. Et là, je fais ah oui, effectivement, je comprends qu'il y ait plein de gens qui peuvent se dire oui, le film est présent. Mais pareil, c'est comme les Arachnophobia et compagnie. En fait, avec Flo, on s'est pas rematé tous ces trucs, quoi. On est plutôt allé, ouais, comme je disais, dans du Alien, du Green Room. Après, Flo, il a encore d'autres refs à lui.
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'il y a un petit peu de Gremlins ou pas au début?
Alors, c'est encore une fois, c'est pareil, volontaire. C'est peut-être inconscient, mais c'est dans
ça
nos
que
têtes.
J'ai choisi Candyman et pas ouais, Gremlins.
C'est dans nos têtes à tous d'aller chercher chez le gars qui vend des trucs un peu exotiques. Et puis, dans une boîte, il y a ce truc-là. Ouais, c'est cool. Et puis, on nous parle des Goonies, on nous parle de plein de trucs comme ça.
Ah ouais.
Mais je pense qu'il y a un truc de. Bah, c'est les films avec lesquels on a grandi, ils seront là quoi qu'il arrive, quoi.
Sophia, Jérôme, vous avez des films qui vous ont inspiré en termes de jeu ou pas du tout? Parce que je sais que ça dépend des acteurs, de ce film.
Non, mais en fait, moi, j'avoue, je bosse pas comme ça, de me dire mate ce film avant de faire le mien et tout. Je sais pas, moi, j'arrive pas trop à bosser comme ça. C'est vraiment un truc de connexion avec le réal, avec les comédiens, où c'est là où je vais développer mon jeu avec les répétitions sur le décor et tout ça. Et je pense que inconsciemment tous les films que j'ai vus dans ma vie m'inspirent, même si c'est pas un film d'horreur et que j'en tourne un. Je pense que tout m'inspire, tout nous nourrit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on découvre. Ouais, je pense que tout ça nous nourrit, mais inconsciemment. Mais ça m'est jamais arrivé de mater un film avant d'en tourner un autre pour me dire ah j'ai trop aimé comment elle a joué ça, l'actrice machin, j'ai envie de faire pareil. Non, je pense que c'est des choses qui restent d'il y a longtemps, mais je le fais pas avant de tourner, quoi.
Je suis d'accord avec So, mais pour ce film-là, moi forcément, il y avait des choses qui me rattachaient à Alien, dont je suis un fan absolu. Donc, pour moi, c'était juste du pur bonheur d'imaginer d'avoir fait une sorte d'Alien, tu sais, sur des phases de peur et tout. Enfin, il y a des phases cultes dans que ce soit le 8e passager ou les autres, même le 3, où vraiment t'as la
même
bête
le
qui
3.
Est... Bah bien sûr,
moi j'aime le 3,
j'adore le 3,
mais il y a autant de personnes dans la même salle qui aiment le 3.
Ouais. C'est très rare, c'est
très très rare.
C'est pour moi une DA qui m'a marqué, mais à jamais. La première fois que je l'ai vu, j'étais gosse, j'ai fait mais c'est-à-dire cette prison et tout, mais trop bonne idée, ils sont tous rasés et tout, qu'est-ce que c'est?
C'est
tu te prends une vague de DA, gars, de création, c'était trop beau, quoi. Et du coup, dans plein de ces films là, t'as forcément de la chair à canon qui y passe à un moment. Donc quand toi t'es face dans un film de monstre d'araignée, ou à un moment c'est ton moment avec la scène où t'es face à une araignée, tu vois, enfin pour moi c'est des années où j'ai passé des années à regarder mille fois ces aliens, où je dis oh là là, je joue un peu comme ça là, c'est trop gaulerie, quoi. Même si c'est ma patte, tu vois.
Non, mais du coup on était quasi one shot sur toutes les scènes de Jérôme tout seul. C'est vrai qu'on faisait trois prises max,
trop chaud, mec,
parce que non on a directement la même ref. Je lui dis pas repense à Alien ou je sais pas,
tu vois la scène dans Alien,
ouais,
ou la même
fait,
chose
il sait très bien, je lui dis regarde, c'est là, c'est ça que tu vois, c'est à cet endroit, on lui met une marque et tout, tu prends ce temps là à peu près machin, et après je savais que je lâchais Jérôme.
Alors que nous on faisait des 22 prises.
Parce que vous avez pas vu Green Room.
Non, mais que ce soit les monstres ou les fumis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aliens dans mes inspis de m'imaginer avec dans des scènes de tension, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
Et il y a un truc qui est connu, c'est que dans Alien, Ridley Scott, il a un peu joué sur la peur du casting, qui leur faisait flipper entre eux, qu'il y a la fameuse scène où le premier chestbuster,
Facehugger.
Non. Ah bah si, Chestbuster, là, parce
chestbuster.
Que Facehugger,
ah ouais,
c'est
oui,
le premier Chestbuster qui sort du bide, personne n'est au courant,
oui,
il y avait des effets spéciaux, etc., machin.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous sur scène, vous sur le ouais, tournage, il y en avait qui avaient peur des araignées.
Bah oui, moi il m'a foutu avec des araignées alors que je suis arachnophobe.
Pas que toi d'ailleurs.
Pas que même toi. Pas. Je crois que je t'ai même pas demandé.
Si si, tu le savais.
Ouais, mais
si,
toi
si.
Quand tu reçois ce scénario, Sophia, forcément tu te dis, ok, je vais devoir affronter ma phobie à un moment.
Ouais, mais en vrai, du coup, c'est ça qui m'a vraiment fait kiffer. Je me suis dit, je vais me challenger comme ça. Et en vrai, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour toutes les bestioles, que ça soit cafard, vers de terre, chenille. J'ai une passion pour ça. Ouais, vraiment, j'adore. Je trouve ça ouf. J'aime la vie, aussi petite soit-elle. Et je comprenais pas. Ouais, mais en fait, voilà. Et je comprenais pas pourquoi les araignées, ça me dégoûtait, pourquoi ça me faisait peur. J'ai essayé de chercher un peu dans mes souvenirs. Peut-être c'est quand j'ai vu les frères Grimm. Il s'appelle comme ça le film, je sais plus.
Ah ouais.
Vous rappelez?
De Terry Gilliam.
Et ben, je crois que ça m'a un peu marqué ce truc du cheval qui ouvre la gueule et qui a plein d'araignées, un million d'araignées dans la bouche et qui avale la petite avec des toiles et tout. Je crois que ça m'a un peu choqué.
Bah, tu l'as vu à 3 ans.
Bah, raconte ouais. Ça.
Dit comme ça, je peux comprendre.
Ouais, parce que moi, je l'ai pas vu. Et dit comme ça, c'est trauma
immédiat. En fait, je me souviens absolument de rien. De rien. Je me souviens de rien de ce film. J'étais même pas plus sûre du titre. Mais je me souviens de la petite fille qui descend comme ça, qui va voir le cheval parce qu'elle entend faire des bruits bizarres et elle se fait avaler par des toiles d'araignées. Il y a un million d'araignées dans la gueule de l'animal. Et en fait, je m'en voulais un peu de pas aimer ces bestioles-là. J'aimerais les aimer en fait comme les autres. Et du coup, je me suis dit, ok, bah let's go, c'est le projet ou jamais.
Vas-y.
C'est vraiment le projet ou jamais. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, je vais pas me dire, ok, je vais aller quelque part, j'en sais rien, à la ferme tropicale pour aller toucher des bestioles, des araignées et tout, tu vois.
Personne fait ça.
Personne fait ça, personne. Tu vois. Donc là, c'était un peu le projet ou jamais. Et je suis plus du tout arachnophobe.
C'est vrai. Tu parles du délit de sale gueule. Et du
oui,
coup, forcément,
complètement. Et j'en ai.
Dans le truc
j'étais
dire...
complètement dans ça. Donc en fait, je me suis dit, bah ouais, carrément, c'est ça, c'est du délit de sale gueule. Pourquoi? Et il y a Karim qui travaille à la ferme tropicale, qui était l'éleveur d'araignées en fait sur le tournage, qui s'occupait d'elle, qui m'a beaucoup parlé d'elle, qui m'a fait prendre une araignée en fait. Ouais. À la fin du tournage, j'ai pu en prendre une dans ma main. Et depuis, je suis genre vraiment totalement guérie.
Mais alors moi, j'avais une question là-dessus, parce que moi, quand je suis venu la deuxième fois sur le tournage, Karim, j'ai fait un petit sujet pour combiner avec lui.
Tu filmais de très loin.
Ouais, de très très loin, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Karim me dit, mais tu sais, si tu veux, Arthur, moi, je te fais un petit stage de désensibilisation et très rapidement, t'as plus peur. Moi, le très rapidement, j'y crois pas.
Bah, après, c'est pas très rapidement. Moi, ça a été le temps d'un tournage, quand même, tu vois.
Donc, t'as quand
même
j'étais
passé, pas là tous les jours
semaines.
Avec elle. Ouais, j'ai pas tourné, moi, tous les jours. Mon personnage n'est pas tous les jours avec des araignées. Quand elles étaient là, enfin, il y a un truc qui se passe de fascination, de le fauve est lâché. Et je sais pas, tu t'intéresses à elle. Et en plus, t'as quelqu'un qui est là, donc Karim, qui les connaît très bien, qui peut t'expliquer. Voilà, si tu l'embêtes, machin, parce qu'il s'est fait mordre deux fois sur la totalité du tournage. Et il les a embêtés quand même. Tu vois, il les a quand même prises, déplacées, machin.
Cette information.
mais en fait, il te dit, c'est un animal fragile qui a peur, elle a extrêmement peur et en plus elle ne te veut absolument aucun mal. Elle ne sait pas que t'es vivant, pour elle t'es un arbre.
Ouais, t'es une branche.
Parenthèse, il y a deux types de. Il y a morsure et piqûre,
oui,
c'est pas la
fait,
même chose.
En fait, elles mordent.
Elles sont tellement gentilles.
Voilà.
D'abord, elles te mordent pour
elles
te dire bon, allez, là j'en ai marre.
Et après,
et si jamais tu lâches pas, là elles te piquent parce que c'est tellement d'énergie pour elles d'envoyer du venin qu'elles le font quasi soit pour vivre, genre manger, soit parce qu'elles sont en danger de mort.
Après, l'intelligence de toute l'équipe et de Sébastien Yaud, c'est de pas avoir été sur des grosses migales. Absolument pas.
On en a vu une de migale et j'en ai même prise une dans mes mains et elle est montée et tout. Ouais, j'ai vu, ça m'a.
C'est des gros nounours ça maintenant.
En vrai, je trouve ça, franchement, je trouve ça beaucoup plus mignon. D'ailleurs, moi, maintenant, je suis fan d'une espèce, je pense qu'on dit d'araignée, c'est les jumping spiders. Genre, je suis abonnée à 8 comptes différents de jumping spiders.
C'est celles qui sont un peu mignonnes,
elles
je viens de regarder.
Mignonnes, et les mâles ont les, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais le devant, pédipalpe, qui sont bleu, vert. Non, t'es en train de regarder?
Oui, je suis en train de regarder,
c'est la chose la plus mignonne du monde.
C'est mignon.
C'est les araignées Pixar.
Mais oui, c'est les mêmes que dans Marcel le coquillage avec ses chaussures.
Oui, c'est exactement.
Genre, vraiment, elles sont trop mignonnes. Et les femelles, c'est rose devant, et les mâles, c'est vert. Elle te regarde comme ça. Et... Non, ça, c'est trop mignon. C'est... Bah ouais, mais je pense que les araignées du film font plus flipper. Bah d'ailleurs, c'était ça l'objectif en choisissant les théropoda maxima, c'était de pas tomber dans le cliché.
Ah ouais, tu connais
de...
le nom, refait.
Et elle l'utilise parfaitement.
Comment ça s'appelle?
Hétéropoda maxima.
Allez.
C'est l'espèce avec laquelle on bosse sur Vermine.
Ouais, hétéropoda, il y en a plein. Maxima, parce que c'est les plus grosses.
C'est la plus grosse.
Mais c'est en gros une espèce de tégénaire. La tégénaire, c'est celle qu'on connaît bien en Europe. Et moi, je voulais vraiment avoir une araignée qu'on connaît, qu'on peut identifier. On se dit, ouais, celle-là, je l'ai déjà vue dans ma salle de bain, mais pas aussi costaud.
Lisa, elle l'a trouvé, elle en a trouvé une similaire chez elle,
chez elle, dans son sac.
Ouais, ouais. Et elle a paniqué parce qu'en fait, je raconte l'anecdote de Lisa qu'elle a trop racontée. En fait, elle a trouvé une araignée chez elle qui ressemble vraiment à celle du film et elle l'a envoyée dans le groupe pour rigoler, genre ah, lol, regardez, j'en ai ramené une avec moi. Et en fait, t'as genre vraiment Harry, le producteur, qui l'a appelé en disant on a perdu une araignée aujourd'hui sur le tournage. Et Lisa, elle a commencé à paniquer en se disant mais c'est moi, j'ai volé l'araignée, je l'ai ramenée chez moi, qu'est-ce que j'en fais, je vais pas la garder en attendant de retourner
sur. Bon,
oui, oui, elle s'en voulait parce qu'elle l'a libérée, elle l'a mise dehors, tu vois.
Une araignée tropicale.
Oui, voilà.
Elle s'est dit bon, bah,
plein hiver, hein, la pauvre.
Comment le film est devenu réalité, sauf
mais le fin mot de l'histoire, c'est que ce n'était pas une araignée du tournage parce que toutes nos araignées
ont été retrouvées. Ouais. Voilà,
bah, il y en a une qui a vraiment pris la malle pendant
3
jours.
Oui, mais c'est celle-là en fait. Elle est partie sur le tournage. En fait, moi je l'ai vue de mes yeux. Elle est partie dans l'arrière d'un
mur.
Je me casse. Et du coup, un truc tout fin. Et du coup, elle est ressortie le lendemain. Je crois que c'est le lendemain où
elle
Karim la retrouve.
Elle est
ressortie. Oui, elle a pondu et elle est. Non, toutes nos araignées vont bien, on t'est retrouvées et cool, des jours heureux chez Karim.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que Karim m'expliquait un truc qui est très bête, mais en fait, j'y avais jamais pensé avant, c'est qu'une araignée, tu peux pas la dompter.
Ouais.
Tu peux pas la dresser. Donc en fait, t'es obligé de...
Elles aiment beaucoup l'oseille, donc tu peux...
ouais, tu peux leur
faire du bifton.
Mais il y a ce truc de... En fait, vous devez bosser avec un animal sauvage.
Ouais, mais après, Karim les connaît aussi tellement bien, il peut les amener à faire ce dont Sébastien a besoin.
En les réchauffant, si... les refroidissant.
Oui, voilà, exactement.
Il
les fait un peu courir, par exemple, si on a besoin d'une araignée qui est plutôt statique et qu'on veut dans une position précise ou quoi, et qui ne bouge pas, et bah, il les fait un peu courir, genre vraiment 30 secondes, parce que c'est vraiment très fatigué, ça se fatigue vraiment très très vite une araignée. Et donc 30 secondes de course, et puis on la met sur le mur, et puis là, voilà, elle est statique, elle bouge pas. Et...
Jérôme, tu sais que t'étais serein avec les araignées de prime abord ?
Ouais.
Quand t'arrives sur place et que t'en vois autant et des aussi grosses en vrai,
ouais, on se calme effectivement, on reste à ça. Moi, je suis resté à ma place en fait. Hein. Je les appréciais de loin et pour respecter aussi, pour pas que ce soit
un
trop
peu
compliqué,
leur intimité et tout.
Enfin, que ça se transforme pas en foire du trône et tout. Je laissais les gens qui étaient excités aller voir et moi, je restais très loin.
c'est propre.
Voilà.
C'est sympa de ta part.
Je regardais
au
combo. Faut
pas oublier que c'est des petites bestioles qui ont peur, qui ont peur aussi, qui ont rien demandé.
J'ai revu la vidéo dont tu m'avais parlé de l'avant-première. Lui, c'est Normandie où d'un seul coup, Karim perd l'araignée sur scène devant je sais pas combien de centaines de personnes.
Ouais.
On voit la panique sur ton visage.
J'avais un peu peur.
Juste Jérôme et moi, parce que Karim, il était très serein avant la projo. Il me dit non, mais t'inquiète, si elle tombe, je la connais très bien. La distance est trop grande pour qu'elle puisse atteindre le public. Elle va se fatiguer avant. Et du coup, à un moment, elle tombe l'araignée. Enfin, elle tombe pas, c'est elle qui saute, qui descend, et il la laisse marcher. C'est vrai qu'elle a fait mètre et KO. KO technique, elle était je peux pas.
En vrai, quand tu vois ça, tu vois, t'as plus peur des araignées. Tu te dis, bon, bah, au pire, moi je fais vraiment 3 bons là-bas, elle me rattrapera jamais. Genre, elle aura trop la flemme.
Sauf quand elles sont géantes, bien sûr.
Ouais, oui,
bien
sûr.
Moi, j'ai vraiment eu une discussion avec plusieurs de mes potes parce que j'ai pas mal de mes potes qui étaient venus, notamment à l'avant-première que j'avais présenté, et ils me croyaient pas quand je leur disais qu'une bonne partie des araignées de la scène de, on va dire, la scène de la salle de bain,
la scène de la salle de bain,
qu'une bonne partie était vraie.
Si, ouais, on a fait.
Parce que ça, je trouve ça ouf pour le coup, parce que je pense que c'est le truc le plus. Moi, c'est peut-être la scène qui m'a mis le plus mal de tout
pareil.
Film. Et en fait, donc tu confirmes, c'est
le meilleur argument que je peux vous dire, c'est l'oseille. Encore une fois, j'ai pas l'oseille de faire trop de plans BFX. Dès que je peux faire avec des vrais, je fais. Et en l'occurrence, comme elles font une taille normale, autant que je fasse, enfin réelle, autant que je fasse.
Ouais, mais elle te propose des trucs de fou.
Ouais,
cette araignée,
alors
là.
C'est vrai que Karim, il y a eu un truc miraculeux. Je pense qu'on les a vraiment tellement bien traités. Je sais pas si c'est donnant la nature, hein. Mais ça s'est tellement bien passé. J'ai tellement voulu qu'on fasse gaffe de tout, de comment on les obtient, où elles sont gardées, dans quelles conditions, comment on les amène sur le plateau, qu'est-ce qui se passe pour elles pendant la journée quand elles tournent pas, comment elles rentrent, tatata, et qu'est-ce qui se passe pour elles après le tournage aussi. Que je sais pas, peut-être que voilà, good vibe, on est sympa les uns avec les autres, et elles m'ont donné des trucs incroyables.
Est-ce qu'elles ont des petits noms et qu'on dit ah bah aujourd'hui c'est Guenièvre qui va sur le mur.
Ouais, on avait Sylvie, Sylvie c'est celle de la salle de bain. Ouais. Sylvie nous a beaucoup donné. Non, c'est notre
assistante. En vrai, tu te rappelles pas, j'avais demandé, il y en a.
Oui,
il y en a qui ont des.
C'est notre assistante Cam qui les nommait toutes parce qu'elle était complètement arachnophobe, mais elle vraiment à ne pas pouvoir tourner ce film, elle voulait vraiment le faire, elle s'est fait hypnotiser. Et après, elle est allée à la ferme tropicale et elle a commencé à devoir leur donner des noms pour vraiment s'en sortir.
Et ça,
à partir
et ça
de
aide.
Là, ça
mais les noms, c'est Alexia qui les a donnés.
C'est Alexia, ouais.
Mais c'est fou ça.
Donc on avait notre petite Sylvie et tout. Mais ouais, donc du coup, salle de bain, on a obtenu énormément avec les vrais. Et on a fait aussi des tricks de ce qu'on appelle les multipasses, où tu filmes un endroit, caméra fixe, et tu fais sortir la même araignée plusieurs fois. Mmh. Et après, tu superposes les plans comme des calques, et t'as l'impression qu'il y en a 15 qui sortent, mais c'est 15 fois la même, en fait. Mmh. Des petites choses comme ça, on en essayait au maximum. Et c'était avec MacGuff, hein. Ils étaient sur le plateau, et on en parlait. Et ils disaient, ah, essaye comme ça. Et puis je disais, si je fais ça, comment vous pouvez, machin. Et puis on s'en est sorti comme ça, quoi.
Combien de jours de tournage?
Moi, je connais vraiment les. On a fait.
Ah oui, vas-y.
Alors, vas-y.
6 semaines de tournage, bon, bah, sans les week-ends, 6 semaines de tournage, uh-huh. Une petite semaine au Maroc, 3-4 jours, quelque chose comme ça, et 1 ou 2 jours pour le générique d'intro, non?
2 jours.
Deux jours
voilà. Pour le générique d'intro.
Question pas... budget,
qui a coûté
combien?
Question budget, c'est bon. Ouais. Ce qui n'est pas énorme.
Ah non, non, non,
c'est pas beaucoup.
C'était très costaud. Les journées, on était vraiment bien, bien crevés, ouais.
Vous êtes ressorti comment du tournage, justement, un peu fatigué, un peu... je dis pas ça parce que tu viens de t'aligner. Non, non, mais...
T'as pas enchaîné avec ton spectacle, toi, direct, derrière?
Mais ouais, c'est plus, un peu ça, non peut-être.
Franchement, Jérôme, je sais pas comment il fait.
Je sais plus. Je crois que j'en avais pendant, peut-être.
Ah oui.
Je sais plus.
Il y a possibilité que t'avais ça. Oui, parce que je te demandais de faire gaffe à ta voix et tout.
Ah ouais.
Parce que pour ceux qui l'ont vu en spectacle savent que Jérôme s'envoie physiquement vraiment à fond.
Mais en fait, moi, ça me permettait de rester à flot. En fait, j'aimais bien avoir le spectacle et le tournage entre. Là, c'est plutôt en ce moment, je suis fatigué, mais ça n'a rien à voir puisqu'on a tourné il y a maintenant de ça plus de 10 mois.
Oui, mais ça retombe.
La
promo, c'est plus difficile que le tournage?
Non, c'est pas plus difficile, rien à voir. Ouais.
Non,
c'était physique le tournage. Franchement, c'était ultra physique.
Ouais, mais moi j'avais trouvé ça court, hein, c'était triste.
Ouais. Ah ouais, t'aurais aimé que ce soit ça.
Ouais, vraiment.
Quand même.
Bah, vivement le 2, quoi.
Ouais.
Si on fait 1 million d'entrées, je fais le 2.
Vermine 2.
Ah ouais, c'est une
je l'aurais dit ici.
Avec des araignées encore? Ou est-ce qu'on change d'insecte?
Des kangourous peut-être. Ou des sauterelles pour toi.
Non, je refuse. Je fais mon veto.
Bah, on parlait de la promo justement. Le film, ça fait déjà 4 mois que vous le défendez, puisqu'il a été présenté à Venise en septembre.
Mmh. Ouais.
Donc ça fait 4 mois que ça s'enchaîne, et donc ça a commencé par un festival, pas n'importe lequel. Quand tu reçois, toi Sébastien, une petite notif de ton film a été sélectionné à la semaine de la critique du festival de la Mostra de Venise.
Ouais. Il va clôturer la semaine de la critique.
C'était la clôture en plus.
Ouais. Et en fait, nous, on se battait pour Toronto, et donc du coup, je faisais des semaines de 77 heures, donc 11 heures du lundi au dimanche. Je manquais beaucoup de sommeil et tout, mais t'as un truc de, j'imagine, je suis pas papa, mais comme quand t'es parent, où tu dors plus, t'es avec ton gamin tout le temps, mais t'as une énergie qui vient de on ne sait où. Mais dès que le gamin est pas là, tu t'écroules et en fait tu dors 35 heures d'affilée et tu dis ah ouais, en fait je suis un peu fatigué. Mmh. Donc en fait j'avais ce truc là qui me maintenait à flot, je captais pas ce qui se passait, on était dans le montage, en même temps les effets spéciaux, le son, tout était en même temps. Et on visait Toronto, on parlait que de ça. Et je reçois un appel et je me dis ça y est, c'est Toronto, c'est mon prod, parce que vraiment on l'attendait. Et là il me dit bon, j'ai pas Toronto. Et on était en train de déjeuner.
C'était pour les Midnight Madness.
Ouais, ouais. Et il dit, par contre, il se passe un truc de fou là, c'est qu'on est sélectionné pour clôturer la semaine de la critique à Venise. Et je dis, attends, quelle Venise? Il me dit. Parce que ça peut être le Venezia Horror Show. Et là, je me dis, oui, bon, ok, d'accord, je capte. Le festival film d'horreur, il y en a à peu près 800 000 dans le monde. Et non, elle me dit, bah, la Mostra, tu sais, le truc avec le lion et tout, là.
Ce qui est ouf, parce qu'effectivement, tu as raison, l'horreur à la Mostra, c'est très rare.
C'est impossible. Ouais. Et donc, je dis, attends, notre film et tout. Et après, il m'envoie la lettre de Béatrice, du coup, la présidente, qui parle que du propos social et d'à quel point il est important,
d'accord,
etc. Là, je commence à faire, ouah, je pète un câble.
La lettre est folle.
Et la lettre, ouais, je l'ai encadrée et tout, la lettre est folle. Et après, la question était, mais peut-être que Toronto n'accepte pas d'avoir la première mondiale, donc qu'est-ce qu'on fait et tout? Et j'ai dit, écoute, mettons un coup de presse à Toronto en mode, bon, on a Venise, donc dites-nous les gars, parce qu'ils traînaient, parce qu'il y avait les grèves et machin,
ouais, ouais, bien sûr.
Et vraiment, on savait pas. Et après, il y a Toronto qui nous appelle et qui nous dit, en gros, il y a 10 sélectionnés et nous, on est 11e. Et ils nous disent, voilà, si on a un désistement d'une équipe qui ne vient pas à cause des grèves, on vous prend. Et là, on a dit, mais gars, nous, on n'est pas 11e.
Nous, on est la clôture.
Voilà, on est la clôture à Venise, voilà. Et on va dire oui à Venise. Et ils ont dit, bah, vous avez carrément raison, machin. Et on est allé à Venise et c'était extraordinaire de vivre tout ça. Il y a toute l'équipe technique qui est venue.
Il y a une partie de l'équipe technique, ouais. Parce qu'on a formé un vrai groupe, limite, vraiment une famille, ouais, sur ce tournage. Et il y a du coup une partie de l'équipe technique qui, ouais, ils ont pris leur billet et tout, ils sont venus pour découvrir le film à Venise avec
eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la prod qui les invitait. Ils ont payé leur Airbnb, leur truc, leur machin pour être à la première mondiale du film.
Ouais. Parce que c'était la première fois que vous le voyez, vous aussi? Pas toi, ouais. Seb, toi, je sais que tu l'as vu environ 400 fois.
Moi, c'était la première fois.
Et de le voir dans une grande salle à Venise et tout, dans un festival prestigieux. L'émotion, elle est...
Ouais, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de stress. Après, pour moi, ça n'a rien à voir avec la deuxième fois où je l'ai vu à l'avant-première France avec des Français.
Ouais, bah oui.
Ah ouais.
Je suis pas raciste, hein, je disais plutôt ça. La sortie de son contexte, ça peut
avec
faire bizarre.
Des vrais Français,
des vrais Français,
la langue française.
Non, mais
pas de sous-titres à la
où il y avait un. C'était plus un public plus ou moins journalistique, anglais, international, un peu de partout. Donc il y avait certaines séquences d'humour où je me suis dit à Venise, ah c'est bien, ça marche bien. Mais j'étais loin de me dire à quel point en fait ça marcherait. Ça avait rien à voir avec en langue française devant une salle de 1000 personnes françaises. Mmh. Et ils étaient comme, enfin c'était vraiment la première. C'était plus à Venise pour moi. C'était plus la totalité d'être avec les potes, l'équipe technique. Genre attends, ouais, pour moi il y a que James Bond qui est sur des bateaux, tu vois. et tout d'un coup on y est avec Seb.
C'est
quoi.
C'est
quoi,
c'est
quoi,
tu vois.
On se fait emmener en bateau à l'Excelsior là. C'était fou quoi.
L'objectif était de manger une quantité de pâtes al dente
qui est phénoménale.
Ah ouais, c'est vraiment trop bien.
Le spritz, moi, j'ai horreur de ça. Donc, c'était beaucoup de vin.
D'accord.
Mais du coup, c'était plus l'expérience Venise. Et après, moi, c'est vraiment la première parisienne que j'ai kiffé à l'UGC Normandie.
C'était pas la VDF à Venise. Hein. C'était un mode Cannes. Hein. Tu sais, quand tu présentes un truc, il manquait 4 plans VFX, mais qui gênait pas la narration.
Alors, ouais, nous, pardon, ça je nous me permets, parce que moi, j'ai vu cette version-là. Ça ne se voit pas.
Oui, bien sûr,
il
n'y a que toi qui les vois. Non, il y a un autre festival. Et j'en parlais avec Sophie parce que elle me dit que c'est un peu le Graal. Le
CJS.
Bah ouais.
Ah ouais.
Et ça devait être un sacré truc aussi.
1300 personnes.
Non, c'est un des gros festivals qui me manque. Je rêve d'y aller, quoi.
Elle me dit vraiment CJS, c'est le festival qui.
Alors les gros festivals, c'est CJS et South by Southwest, mais qui est plus large. South by Southwest, c'est pas que du genre, mais.
Et puis c'est même pas que du cinéma.
C'est à Austin, en Texas.
Ah
mais.
South by Southwest, nous on a le Fantastic Fest.
Ah oui.
Et Fantastic Fest, en fait, c'est juste avant CJS. Et il y a eu un truc de on a Venise. Et après, on commence à avoir nos sélections dans les festivals de genre. Mais j'ai été adoubé par les festivals pas de genre. Parce que pour moi, c'était vraiment important cet équilibre entre grand public, public plus cinéphile, tu vois, donc un des trois plus gros festivals du monde, et à côté, vraiment adoubé par les gens vraiment du genre. Mmh. Et quand on a Fantastic Fest, je suis trop content, et après que ça commence à tomber, et on va aller à CJS aussi, et machin, à Strasbourg, enfin, tous ces festivals qui font quand même envie, le PIF aussi, tous ces trucs-là. Et j'en oublie les prix, moi je suis en mode, mais on est sélectionnés, les gars, c'est trop bien, on va pouvoir y aller, on va pouvoir à défendre le film. Moi, j'essaie de me battre auprès de notre district pour y aller le plus souvent avec avec les acteurs, pour que je sois pas tout seul comme ça en interview. en fait, on est en mode, on va aller à CJS et tout. Quand on m'appelle pour me dire, Fantastic Fest, t'as meilleur réal et meilleur film, et là, je commence à me dire, on a fait un truc qui est vraiment cool, quoi. C'est trop bien. Et CJS, 1300 personnes, l'immense salle. Les Espagnols, ils sont fous. Ça applaudit, ça hurle, ça machin. Ils ont pas peur de montrer leurs émotions pendant la séance. On a fait ce film pour ça. Donc, moi, j'ai quelques moments assez cultes de scènes où ça applaudit, ça rit, ça machin. Et en plus, on tape un prix spécial du jury. Donc, tu vas chercher ton prix devant 1300 personnes. Ça, c'est
Kong.
Et le prix du jury, c'est When Evil Lurks, qui était complètement ouf. Donc, du coup, on se retrouve un peu genre médaille d'argent derrière lui. Mm. En fait, il y avait un truc où t'es adoubé par ces gens-là. Donc, tu dis, j'ai fait ce film grand public que je voulais, quoi. J'ai fait ce film qui rassemble les gens en salle, que les gens kiffent voir. Et j'étais trop content. Ouais, CJ, c'était quand même trop, trop cool. Et puis, on a vu pas mal de films là-bas aussi.
Ouais, grave.
Tu veux parler de
films qui sont sortis, des films qui sont sortis le 21 décembre.
Parce qu'en fait, j'arrête pas de parler. C'est vraiment le running gag. J'arrête pas de parler et de défendre un film que j'ai adoré.
Mais qui est super. Hein.
Un film d'animation.
Non, mais il est très bon, ce film.
Mais moi, je suis d'accord. Mais on devrait plus en parler. Il mérite d'être vu. Voilà, il sort le même jour que nous.
Vraiment.
Il sort le même jour que nous.
Avant-hier, mais il était. C'était trop tôt. C'était la dernière séance. C'était à 18h.
Robot Dreams. On n'a pas dit le titre.
Mon ami robot.
Qui est un film d'animation fantastique. Genre vraiment. Qui m'a fait chialer. Mais voilà, bah oui.
Non, mais moi, dis-toi que l'épisode est sorti à un jour où le Vermine est déjà en salle depuis une semaine et demie.
Ça, c'est le scénario, ça chiale.
Hein,
ça chiale de ouf.
Moi je chiale à la fin.
Ça chiale.
Moi je chiale à la fin.
J'ai comme j'ai vu la bande annonce hier, j'ai fait c'est sûr ça va chialer.
Ça chiale mais
avec sa tête là, ce clébar là.
Mais bien sûr. Non mais moi je me dis il y a des gens qui sont peut-être pas sensibles à.
Non non si ça.
Tu peux pas être sensible à un chien et à un robot qui sont séparés par la vie. Enfin.
Je pleurais la bande annonce quoi.
C'est ce que j'ai dit.
J'étais avec ma nièce de 6 ans, on allait voir Migration, j'étais en mode me regarde pas.
Elle a été cueillie en une 15, en une minute 15.
Ah ouais, non, vraiment, la morale
c'est
de
muet,
ce film.
C'est muet,
beau,
c'est
que
en musique. Ouais. Non, vraiment, le film est exceptionnel.
Le coup de crayon, il est fait pour te faire chialer.
Oui, oui, c'est
sa
vrai.
Petite tête là.
Mais à CJS, on a pu voir ça, on a pu voir Gueule Noire, on a pu voir When Evil Lurks, on a pu voir tous ces trucs. Où...
Ah, un film incroyable aussi, Stop Motion. Moi qui regarde pas trop de films, voilà ce qu'on disait de genre et machin et tout. Stop Motion,
très technique.
Ah ouais, ça m'a.
Pas pour tout le monde.
Ouais, pas pour tout le monde. Voir mais il y a vraiment, y a vraiment peu de films. T'as dit quoi ?
Voir même à chier, finalement.
Dans quel sens ? Non, une
urgence technique.
En fait, il y a vraiment peu de films qui, genre, vraiment me mettent dans un état où je suis mal. Tu sais, la séance s'arrête et je suis pas bien.
Moi, j'adore.
Ce qui est très intéressant,
oui,
c'est les avis qui différaient sur le propos.
Ouais.
Et en fonction de ton vécu, on n'a pas du tout le même. Et toi, tu m'as donné un propos qu'on va pas dévoiler parce que chacun le sien.
Et en fait, lui, il avait pas
mais
du tout capté ça.
Ah ouais. En tant que femme, il est complètement différent du mien en tant qu'homme.
Ah,
et quand elle me l'a dit, je dis mais t'as grave raison. C'est toi qui as raison. Moi, j'ai tort parce que ce qu'elle disait, c'était évident en fait. Et bon, t'es allé voir le réal, tu lui en as parlé.
Oui,
il a fait
hyper déçu.
Maybe.
Il a fait ouais, voilà. J'ai fait bon, ok, mec. Je pensais qu'on allait vraiment parler d'un truc ultra profond. Et t'étais en mode bon, bah c'est ton avis, c'est pas le mien. J'ai peut-être pas fait ce film pour ça.
Bon,
quand ça fait ça, genre vraiment quand tu vas voir un réel en mode je mets tout ça
alors,
dedans.
Tu sais qu'en plus, j'osais pas et tout. Et Seb me dit, il me chauffe un peu, il me dit, mais si, vas-y, parle-lui-en, machin et tout. Franchement, j'y suis allée et boum, genre vraiment ultra
déçu. Pour lui, c'était juste un film sur le karting.
En stop motion.
Hors micro, je vous raconterai sur quel film ça m'a fait ça.
Tout à l'heure, tu disais que vous avez envoyé le film en festival en une version qui n'était pas def. Moi, j'ai vu la version de Venise et je peux le dire parce qu'il y a une histoire que j'aimerais qu'on raconte. C'est un peu technique hein, pour les gens qui nous écoutent, il faut aimer le rap, mais voilà. Moi, j'ai vu une version avec une chanson au générique de fin de Laylo, Megatron. Et je suis arrivé sur le tournage, la deuxième fois où je suis venu sur le tournage, Harry, le producteur, m'a dit tu vas voir, à la fin, on aura du gros Laylo, ça va être incroyable. J'ai pris le taxi en rentrant avec Théo Christine qui m'a dit mec, viens, je te mets Laylo parce que ça va être notre chanson de fin, c'est incroyable. Et je revois le film juste avant l'avant-première et il n'y a plus Laylo. Et il y a Hamza.
On a gardé Laylo en intro.
En intro, ouais. Mais tu avais construit ton intro sur la chanson.
C'était au générique. C'était au scénario. C'est au scénario, j'avais écrit Ro Laylo. Et après, Laylo, enfin, en tout cas, son management, et donc j'imagine. Voilà, ça vient de Laylo lui-même, mais on a été en contact avec son manager. Nous a dit qu'il était trop content d'être dans l'intro, mais pour lui, il ne voulait pas clore le film aussi. Il ne voulait pas ouvrir et fermer, ce qui est au final
est logique.
Très logique. Et donc, il m'a dit « Moi, je suis chaud, mais t'en enlèves un des deux. » Et c'est vrai que Rose était indissociable du film. Ouais. Megatron, c'était dur, parce qu'il y avait vraiment une dynamique de nouveau départ qui me plaisait tellement. Et on arrive à se retrouver avec un truc un peu iconique pour tu vois, Megatron, c'est quand même le son le plus connu de Laylo. Et du coup, je suis en mode, faut que je trouve un très bon son de fin où les gens ils peuvent être bangés vraiment parce qu'ils connaissent, donc ils doivent avoir de la notoriété. Et j'aime bien ces films à l'américaine où c'était Rage Against the Machine qui finissait Godzilla et tout ça, tu sais, les trucs un peu vénères, ouais. Et du coup, je suis dans la voiture avec Amon qui était mon assistant sur le film. Et en fait, elle tombe par hasard. Par hasard, il y a vraiment ce son de Hamza et Damso. Et God bless. Et je me rappelle que Jérôme a parlé de son manager et tout en parlant d'Hamza. Et je lui envoie un message, je dis « Gars, comment est-ce qu'on pourrait faire ?» Machin, machin. Et en vrai, deux semaines après...
Parce que pas simple, hein, c'est un gros morceau,
simple,
c'est des gros artistes. C'est quand même une belle ligne sur le budget quand même.
Et je te passe des détails de Universal qui rentrent dans la boucle et on nous dit « Ok, c'est 25 000 balles et pas bam bam » et qu'on n'a pas.
En fait, j'étais passé par un pote qui travaille chez Believe. Et donc pour avoir les contacts du management d'Hamza, des deux managers, des deux gars de sa team quoi. Et donc il me file le contact et il me dit la seule moyen de faire c'est d'envoyer, de voir, de demander, dire que c'est le budget et tout. Et donc Seb a fait ce qu'il sait faire de mieux, il a envoyé un mail brut de décoffrage en expliquant la vérité quoi. Et
Ouais, en fait, d'abord, on est passé par le truc classique. Une fois qu'on avait les contacts, j'ai envoyé à notre superviseur musical en disant voilà, tac, tac, tac. Et je vois que ça prend pas et qu'on nous demande vraiment de l'argent, même en faisant un effort, c'est trop cher pour nous. Et à un moment, je dis bon, les gars, vas-y, je vais écrire un mail directement aux gars qui ont fait le son et on va voir. Et oui, c'est vrai que j'ai pondu un petit mail en disant bon, les gars, on n'est pas là pour l'argent, on a fait un film indé. Quand je vous dis que tout est à l'image, on n'a plus un euro, je veux finir avec un son iconique, voilà de quoi parle le film. C'est très important pour moi, pour la culture. Qui n'est plus urbaine, qui est la culture avec un grand, c'est pour moi, vous la représentez, ta, 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 ta. Et il m'a répondu 10 heures après, un mail très simple qui m'a dit tu m'as parlé avec le cœur, c'est pas souvent qu'on nous parle comme ça, considère que c'est bon. Bam. Et on avait le son.
Ouais. C'est ouf.
Ouais.
C'est
et du en coup, vrai, on a ouf. Un son iconique qui clôt le film où tout le monde connaît et tout le monde. Voilà.
Tout le monde sauf Sophie, du coup, malheureusement.
Je suis désolée. Hein.
Sophie est un peu à la rue sur cette discussion, pardon.
C'est pas grave, hein, j'apprends des choses. C'est ça aussi, ça, le podcast, j'apprends plein de trucs.
Il y a plein de trucs qu'on connaît.
Non, mais
pas
en vrai, tu sais comment fonctionne le financement d'un film et on sait que les musiques, c'est toujours une partie qui prend pas mal de part dans le budget. Et moi, je trouvais que l'anecdote était ouf de se dire que c'est le producteur qui t'a dit, bah, gars. Vas-y en fait. Ouais. À un moment, court-circuitons tout ça et faisons ça. Et je trouve ça trop chouette en fait.
Ouais. C'était, on va faire un film urbain indé et on veut le meilleur de la musique urbaine indé.
Après, je pense que Seb, il a aussi ce truc-là de. Enfin, nous, il nous a tous. Bon, toi, il te connaissait déjà, mais je pense qu'il fait ça à tout le monde sur ce projet, que ce soit l'équipe technique, les acteurs, les producteurs, tout le monde. Il y a un truc de quand il parle de ce qu'il a envie de raconter dans ce projet, de pourquoi il le fait, de ce que ça représente pour lui, de ce qu'il a envie de donner au public. Mais il parle tellement avec les tripes, quoi, qu'il y a un truc où. Où t'as envie de dire ouais gars ouais bien sûr vas-y t'as besoin de quoi genre en vrai il fait ça ça a fait ça
parce enfin, que ma c'est... famille est maintenue en otage et donc du coup
il finit quand même toujours par ça
non mais il y a aussi ce truc de c'est con mais j'ai trouvé ça aussi assez puissant d'utiliser des chansons actuelles vraiment écoutées par les gens en fait
sauf Sophie
pardon mais en fait ce que je veux dire par là c'est que trop facilement
c'est une blague Arthur c'est une blague non, mais en vrai pas.
Non c'est pas m'excuser mais c'est expliquer c'est qu'en fait trop facilement on a tendance à mettre du NTM et c'est bon c'est un film qui se passe en banlieue c'est ok et en fait non bah Laylo Hamza enfin tu vois il y a un truc on parle de la musique, de ce qu'écoutent vraiment les jeunes, parce que les personnages sont jeunes.
Ouais, ouais, ouais bah c'est ce que j'écoute aussi. J'avais envie de faire, c'est les musiques que j'écoutais pendant le. Merci. pendant l'écriture du scénario, c'est vrai que j'écoute aussi des grands classiques et j'ai beaucoup plus écouté la bande originale du Seigneur des Anneaux en écrivant Vermine, parce que c'est dur d'écrire avec quelqu'un qui rappe ou qui chante, donc du coup t'écoutes plutôt des violons. Mais quand il s'agissait d'avoir ce que, en fait c'est des bascules tout le temps. Les moments musicaux dans le film sont toujours des bascules qui permettent de passer un autre chapitre, en tout cas une autre étape, bah, j'avais tout de suite ma playlist indé française que je remettais en avant et j'allais chercher dans ce que j'écoute tout simplement. Quoi.
Alors fun fact, tu le sais pas, mais il y a deux jours, j'ai cherché la BO de Vermine sur Spotify et j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça, qui est la playlist qu'a fait Sébastien.
Wow
pour écrire Vermine.
Elle est publique.
Elle est en public. Il y a 15 personnes qui l'ont liké, dont moi.
Wow. Et du coup, il y a tout des trucs qui sont même pas dans le film et tout.
Voilà.
Ah ouais, ouais.
Non, mais attends,
donc, si ça vous intéresse, il y a une playlist.
Mais j'ai une playlist par film que j'écris. Donc là, il peut y avoir des énormes doses de ce sur quoi j'écris. Là.
Oui, vraiment.
Parce que je mets toujours writing et le titre de ce que, sur quoi
Bah, t'as plein de playlists. Mais en tout cas, c'est intéressant. Les gens sachent qu'il y a une playlist qui s'appelle Writing Vermine.
Je vais direct les. Parce que là, il y a un gros dose quand même qu'il faut que je planque très très vite.
Ça va, non ? Il n'y a rien de honteux, non ?
Non, mais il y a un énorme dose.
On va finir cette émission tranquillement. il va aller jeter un œil.
Pour terminer, moi, il y avait un dernier truc que je voulais voir avec vous avant qu'on fasse un petit module de fin. Vous nous écoutez, on est forcément le 5 janvier passé, mais là où on est le 30 décembre, le film est sorti depuis 3-4 jours. Ouais. Il a fait un premier jour qui est quand même pas dégueu. Ouais. Il a fait 20 000 entrées avec avant-première, ce qui est le plus gros score pour un film d'horreur en français depuis 2000. Ouais. Et puis prenons-nous dans les bois.
Ouais, ça me fait trop kiffer parce que j'étais allé le voir.
À l'époque
Bah ouais,
Mais t'avais quel âge?
Bah je sais pas, en 2000, j'avais 85, 25, j'avais
25, t'avais 15.
J'avais 15 ans avec Clotilde Courault et un gars qui a fait des pubs de parfum ensuite. Comment il s'appelle, l'espèce de beau gosse là?
En 2000,
je sais plus,
j'avais 3 ans.
Tu sais, il a fait des pubs de parfum où il courait quoi, je me suis dit putain.
Vincent Lecoeur, Clément Ciboni.
Ouais, je pense, ouais. Je suis une sorte de Gaspard Ulliel low cost un peu.
Oui.
vois, c'est qu'on a plus jamais revu, tu vois. Mais je l'aimais trop, tu vois. Et Prom dans nos lieux bois, bien sûr, c'était vraiment pas Gen. Mais à l'époque, tu sais, il y avait un truc, quoi. C'était une sorte de slasher dans les bois, un peu chelou, tu vois.
Il tape 750 000 à la fin, lui, c'est ça?
Non,
ouais, un truc comme
c'est
ça.
Énorme.
Mais,
non, mais on est dans un.
Oui, mais justement, en fait, je veux savoir, ça équivaut à quoi aujourd'hui? Moi, j'ai
il
jamais
a fait 700, il a fait 749 500 000 entrées.
Mais il est à 1,1 sur Allociné en notre spectateur.
1,1.
Ouais, je
mais
crois.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, non, mais c'est Wikipédia. Exactement ce que disait Sophie tout à l'heure. Tu sais, c'était dans les années 2000 quand la France a commencé à faire des films d'horreur.
La French Frayeur.
La French Frayeur, en fait, c'était.
Ouais, mais alors celui-là, il en fait pas trop. Enfin, moi, je l'ai pas en tête hein, quand je parle de la French Frayeur.
On a plus Martyr et compagnie.
Ouais, puis il y a eu plein de petits trucs. Genre, il y a un film, je sais pas si vous vous en souvenez, Boîte Noire avec José Garcia.
Ouais,
genre, tu le mets là-dedans, toi. C'est ce que j'appelle les queues de comète de French Frayeur. C'est on va faire du genre à la française.
Ouais, ouais.
C'est pas par les gars de les. Je suis désolée de ma voix.
Non, c'est pas grave.
C'est bien,
mais... on va
ils ont fait 750 000.
C'est ouf, hein.
Il y avait
c'est
aussi énorme. Un truc.
Mais c'est le plus gros film d'horreur
Clovis
français
Cornillac,
de l'histoire de l'univers.
Oh oui.
Ultra sci-fi.
Ah oui, comment ça s'appelait ça?
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'il était pas si mal, si?
Eden Log.
Ouais. Mais attends,
il
mais
prend
c'est...
le micro que pour dire des vérités. Drop the mic.
Réalisé par qui? Parce que c'est pas un réel
Franck
un
Bestiel.
Peu. Ah, alors non, c'est bizarre.
Pardon.
Je m'attendais à un autre truc.
20 000 entrées premier jour, c'est assez remarquable. J'suis... Toi, tu, enfin non, toi, en fait, on va pas se mentir, il ne réalise pas.
Ah, je sais pas ce que c'est. Enfin, on était à la soirée chiffre ensemble. T'as bien vu que moi, on aurait pu me dire 10 000 ou 75 000. J'aurais fait c'est bien, dites-moi, c'est bien, c'est pas bien.
Ouais.
Donc après, quand on m'a dit meilleur démarrage, machin, je me dis ok, trop cool parce que. Mais ce qui est trop bizarre, c'est qu'il y a des gens que je connais pas, qui me connaissent pas, qui juste entendent et qui vont dans la salle. Ça, c'est trop bizarre.
Il y a des gens pour qui immeuble. Araignée, ça suffit,
ouais,
en fait.
C'est...
Hein.
Mais c'est ça, en fait.
Ça me paraît ouf.
Ça vous arrive jamais, genre, de scroller sur des plateformes et dire, tiens, j'ai envie d'un film de requin? Genre, ça vous a jamais...
Ah oui, oui,
bien
sûr,
bien sûr. Bah voilà, genre, il y a des gens, ils aiment les films avec juste un concept simple.
Ouais, ouais.
Et là, Araignée, Survival, c'est super, quoi.
C'est plus
d'empassement,
c'est moi, Sophia, de voir.
Ouais, je vais prendre un cachet.
Mais non, les chiffres sont extraordinaires, je suis hyper content.
Les retours, non?
Les retours, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu autant de messages.
Ça va, alors je suis désolé, je dois le dire. Ça va de Valérie Damido à Eric Nolot, qui a fait un tweet tout à l'heure.
Oui, c'est vrai.
Valérie Damido, elle
oui,
a fait un truc.
Tu l'as pas vu.
Mais arrête.
Valérie Damido, mais si, à la soirée chiffre.
Elle a dit super.
Mais non,
déco, super papier peint dans la. J'étais obligé.
La régalade.
Non,
je suis co-auteur du One Man Show de Jérôme.
Non. Il me reste quelques dates quand même, tu vas pas me pleurer. Tout le travail
t'es
effectué
complet.
Pendant 2 mois et demi.
T'es complet.
J'ai écrit avec lui. Non, n'importe quoi. Il m'a pas aidé une seule seconde sur l'écriture de ce spectacle.
Van
sur la musique, mais.
Non, donc il y a.
La déco de Damido.
Ça fait
le
9 ans qu'elle a fait ça.
Désolé Valérie si tu nous écoutes et merci pour le tweet.
Voilà. Non mais en vrai vous avez vraiment eu des messages de
ouais,
de
là, c'est vrai que c'est trop la dose d'amour pour ouais. moi est extraordinaire venant d'Europe de l'Est n'ayant pas reçu d'amour dans mon enfance. D'un coup
cette vanne je vais la mettre.
J'ai grandi.
Il est slave. Demandez-lui ça veut dire quoi.
Ah oh là là l'étymologie de slave bien sûr.
Qui vient de slave,
non, qui
veut
a
dire...
donné slave, les
qui
premiers esclaves
slave.
Étaient slaves.
Ah. Et voilà, et du coup, à chaque
on
fois,
est le peuple qui a souffert.
Et il me parle de Saint-Sébastien, le martyr et
voilà.
Machin. Oh là.
Voilà, bah écoutez, on va faire un bout du podcast là-dessus, sur le peuple slave.
Oh là
voilà.
Là, il souffre.
Et j'avais des petites oranges à Noël, et donc du coup, c'est vrai que recevoir autant d'amour comme ça, c'est. blague à part, c'est un truc de ouf. Il y a trop de. J'ai jamais reçu autant de messages de gens qui sont heureux, etc. Je suis trop content. Ça va de tous les styles et c'est pareil pour Sophia, c'est pareil pour Jérôme j'imagine, mais il y a un truc de on reçoit beaucoup d'amour et c'est trop c'est extraordinaire. Mmh. Et j'espère juste que le bouche à oreille va continuer, va apprendre. Je suis pas en train de vouloir viser le million d'entrées, je veux juste confirmer qu'on a fait un truc, que le public est là pour ce truc et du coup potentiellement qu'il y ait d'autres films comme ça derrière, parce que les producteurs vont se dire ah mais en fait les gens ils y vont, ils ont envie de ça, ils sont contents quand ils sortent de la salle.
Et moi, je me rappelle quand même au tout début avant le tournage de Vermine, il y avait vraiment cette volonté genre immense de faire kiffer le public, et là le film est sorti et plein de retours sur Insta, plein de stories, plein de trucs d'un public qui est genre vraiment content. tu dis ok, bon bah ça c'est fait, c'est bon, c'est cool, ça fait vraiment vraiment kiffer.
Puis si on peut envoyer un petit message au CNC au passage, que c'est un film qui fait des entrées et qui fonctionne, et en plus, parce qu'on l'a pas dit hein, succès spectateur évidemment, la note sur le ciné critique elle est aussi très haute.
Ouais, il y a vraiment
il y a très peu de critiques négatives.
Le rapport presse-spectateur est fou. Hein. Moi, c'est des potes à moi qui creusent, qui diguent un peu.
Ouais.
Et tu vois, ils font alors voilà, j'ai observé ça. Alors franchement, je te le dis, j'ai rarement vu ça. Parce qu'il aime bien voir les critiques.
Il a un tableur Excel avec tous les films depuis 20 ans.
C'est ça. Donc il me fait tout le boulot, tu vois, et il me fait compare et tout. Je te dis, gars, c'est assez fou et tout.
Non,
donc, on est trop contents. Et puis si ça peut effectivement, si Vermine peut être un film qui débloque des aides pour les prochains films, bah oui, c'est trop bien.
Ouais.
Pour terminer, moi je voulais qu'on fasse un petit truc parce que donc on est au moment où vous nous écoutez début janvier, on a fait nous nos épisodes top et flop de l'année 2023. Flop, je sais que c'est compliqué, je vais peut-être pas vous le demander, mais juste moi je voudrais savoir c'est quoi le film que vous avez préféré en salle en dehors de Vermine en 2023.
Bon moi je l'ai dit déjà, ça y est.
Toi c'est vraiment
moi,
mon ami
je...
robot.
Ah ouais, moi je reste sur ça. Et non, il y a un autre film que j'ai adoré, mais peut-être que je te le laisse. Ouais, je lui laisse parce que moi je reste sur Robot Dreams, c'est bon.
Sorti en, je crois, Berlin, il est à Berlin en 2020, c'est Limbo, moi.
Ah ouais,
Limbo, okay. Il m'a cassé la bouche, ouais. Vraiment, en mise en scène, en tout, voilà.
Ok.
Limbo, carrément.
Et toi, Jérôme ?
Et moi, je dirais le Scorsese.
Allez, ouais, et ben merci parce que incroyable. J'étais seul à le défendre dans ce podcast.
Anatomie d'une chute.
Bande d'écrit là.
Ah, oui. Merci.
Oui, non, ah bah mais voilà, bien évidemment.
Ouais,
non, mais
il faut faire évidemment. Des choix, les amis.
Mais celui-là, oui, je pense qu'il peut rassembler potentiellement tout le monde.
Oui,
je suis
la seule à l'avoir mis dans mon top.
Ouais,
hein, non, mais de vas-y.
Non, mais il est extraordinaire. C'est une certitude.
Attention.
Ça va. C'est bon. J'ai pas le micro pour me défendre, moi, madame.
Mais juste, on va peut-être pas débattre, mais je veux entendre ton top 1 quand même.
Mon top 1, c'est Marcel le coquillage.
Ah ouais?
Ouais, c'est trop stylé.
En fait, quand on connaît Alexis,
bon, il faut que je le mate.
Mais attends,
oui.
Ils ont droppé un sens critique là où je suis avec Flo.
C'est
et
drôle.
Flo
oh
dit
là là.
Meilleur film de l'année, Marcel au coquillage. Il dit, moi je fais, ça va et tout parce que je suis un beau.
Ouais.
Et Flo, il réagit drôle. Comme si vraiment c'était le film de son daron. Ils font, tu le prends personnellement. Et c'est là que je me suis dit que c'était un film que tu vivais de l'intérieur et qui t'appartient après. Et là, j'ai fait, je me lâche peut-être un peu. Mais en fait, j'avoue, je l'ai pas vécu comme ça. Moi j'ai fait le petit coquage il est mignon, je le veux bien chez
et
moi.
Il lui
quoi.
Peint ses petites chaussures en noir avec son petit stylo ta patame.
J'ai compris.
Faut que tu vois
Jérôme.
Faut que tu le vois,
mais tu vas être comme moi, je pense. Tu vas trouver la phrase parfaite pour en parler, ça va être très drôle, mais je pense que tu vas être comme moi.
On tente pas le film que vous avez le moins aimé en 2023.
Carrément.
Allez, c'est pas ton film de l'année.
Attends, parce qu'en fait, il y a le truc où tu parles des Français et du coup, tu risques de te fâcher avec des gens parce que du
non,
coup,
tu,
c'est...
Tu peux viser international. Hein.
Moi,
mon flop 1, c'est Sodis, tu vois.
J'ai un truc, c'est Barbie. Barbie, le truc dont tout le monde parlait, dont tout le monde machin et tout. Je suis allée le voir en salle et du coup, j'ai subi ce truc de, tu sais, t'en as entendu parler, en fait, tu le vois et c'est pas si ouf. Genre moi, ça m'a pas... Je sais pas, peut-être je suis passée à côté de trucs, j'en sais rien, mais j'ai vraiment pas kiffé comme ce à quoi je m'attendais.
Ah, je capte.
Moi, je vais me faire détester vraiment, mais j'attendais trop de Ari Aster et Boys Afraid. Pour moi, c'est... Allez-y, détestez-moi.
Arthur, on est toujours deux à avoir aimé ce film en France.
On est que deux.
On est deux.
C'était trop une purge pour moi.
Tout du long, j'en attendais.
On a le début, il y a Denis Ménochet, tout ça, c'est quand même très cool. Mais j'ai un immense flop, un truc que j'ai détesté au plus haut point, mais vraiment, c'est genre, je vais pas le dire comme ça.
On voit tous de quoi tu parles.
carrément dans les yeux.
Ah bah on parle quand même d'une partie du corps en géant à la fin, non, c'est pas ça.
Ah tu parles de ça. Ah non, alors ça oui, tu parles de Boys Afraid. Non, alors en vrai.
Ah pardon, j'ai cru qu'on était sur un
autre film.
Excuse-moi, je croyais que tu parlais d'un truc abyssal dans Boys Afraid.
Oui, non, c'est pas, je sais jamais avec qui on va travailler demain et tout et voilà, bon bref, mais on en parlera hors micro.
Ari Aster, si tu nous écoutes, pas de méprise, tu vois, it's okay.
Bah non, mais c'est un génie.
Mais Scorsese a aimé son film, je pense que maintenant il s'en fout, tu vois. Genre.
Carrément, mais ça reste un génie. Hein. Je sais que le film, c'est moi qui capte pas. Je sais que c'est ça. Donc du coup, j'ai pas été happé, mais genre, je peux carrément comprendre les gens qui me disent extraordinaire. Vraiment, j'ai pas de... Par contre, l'autre film dont on parlera hors micro, là, s'il y a des gens qui me disent j'ai adoré, là, je vais en parler avec eux, je veux comprendre. Parce que là, il y a un délire.
Je crois qu'on
mais
en
plus, on
micro.
Est d'accord, Jérôme, on l'a vu ensemble.
Moi aussi, mais je suis pas 100% d'accord.
Mais je vais pas le dire non plus.
Ouais. Parce qu'on est des grosses baltringues, voilà.
Est-ce que t'as un autre flop,
moi,
Jérôme?
Moi, je suis comédien, c'est toi qui as la barre, toi, tu pourrais.
Ouais, voilà.
Non, parce que c'est quand même des gros producteurs, et on sait jamais.
C'est quoi, ce serait quoi un flop que tu pourrais dire, toi, Jérôme?
Moi, un flop, mais avec tout l'amour que j'ai. Hein, même, j'ai regardé il y a deux jours, je l'avais loupé au cinéma, donc je me suis rattrapé. J'ai regardé le dernier Fast and Furious. Et, parce que moi, j'aime cette saga.
Moi aussi.
Mais là, ça commence à vaciller depuis deux, trois épisodes. On
c'est
va pas se mentir.
Tunes, quoi.
Et là, j'ai été un peu abasourdi.
Mais on t'aime, Louis Le Terrier.
Oui, oui. Je le suis depuis
on
longtemps.
On l'adore,
Louis. J'adore, Louis. Mais là, de toute façon, en plus, j'ai Louis dire qu'il était arrivé en cours de tournage.
Bien sûr, ouais,
il a fini quelque chose qui me paraît assez, assez hybride, un truc assez, pour ne pas dire l'espèce de création dans Alien la Résurrection, tu vois. C'est un truc un peu hybride, le bébé qui... comme ça, c'est un peu Fast and Furious 10, tu vois, il était passé sur plein de trucs, et il faut faire ce qu'on peut, et genre t'as un milliard de personnages, t'as vraiment... Tu vois bien que Ludacris et Tyrese ne font que ces films car ils n'ont aucun talent en fait. En tout cas,
Ludacris
rapport,
a d'autres talents.
Exactement. Mais les deux, est-ce qu'ils ont fait autre chose? Non. Donc il faut se poser les bonnes questions. Tu vois, ils sont que là leur quête secondaire
la scène
à eux.
Post-générique.
Elle est horrible. Tu vois, dès que tu les vois, c'est insupportable.
La tu scène vois, post-générique, tu l'as vu ou pas? Ou t'as coupé avant?
Bien sûr, avec The Rock.
On peut spoiler maintenant. Alors il y a The Rock, il y a la scène avec Gal Gadot aussi.
Ah non, oui, ça j'en avais entendu parler, mais je l'ai pas vu, mais je savais qu'elle revenait. Bah bien évidemment, c'est complètement un échec Wonder Woman, et il faut bien qu'elle se fasse de l'oseille quelque part. Tu vois, elle est bon, c'est pareil, c'est en céphalogramme plat. Gal Gadot, c'est la meuf la plus belle du monde, mais par contre, elle joue comme une bûche, tu vois. Ouais. Enfin, il se passe rien, tu vois. Et donc là, il y a que ça. Il
voilà,
y a à part
States, comme
donc, y a le gros sac de Aquaman, tu vois, que j'aime bien, mais il est complètement cocaïnoman, tu vois. Il fait Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, tu vois, comme ça.
Mais il est trop marrant dans le film.
Et donc, il a décidé effectivement de se mettre, de se peindre le vernis, les ongles, tu vois, parce que
il a un peignoir rose.
Mais tu vois, et tu sais plus où ça en est. Peut-être arrive à 1h50 et tout, mais ça va pas m'empêcher de voir le 11.
Bah,
le
12,
le 13, les spin-offs, et parce que bien évidemment, mais si ça va
le
arriver.
Le spin-off Hobbs & Shaw, c'était vraiment le pire.
Et j'y suis allé, mec, j'étais au ciné, je vais dans les salles
premier
obscures.
Premier jour, avant-première. Ouais. Grand Rex, ouais. Avec The Rock tout devant.
Non, mais voilà,
euros la place.
Celui-là,
il y est. Il est là.
J'ai eu un peu de mal, tu vois, qu'il y a un grand Manitou qui mène. Tu vois, en fait, c'est Tom Cruise, mais sans le talent Vin Diesel, tu vois. T'sais, et pourtant, je l'adore. Mais en gros, c'est lui le patron. Sauf que bah, c'est en train d'échouer de ouf, ouais. Tu vois, enfin c'est en train de se lasser. Genre tu regardes, c'est n'importe quoi, c'est bébé cadom quoi.
Ouais.
C'est genre on écrit une histoire et oui, et tu sais l'enfant il grimpe sur la voiture et ensuite il fait un saut entre deux voitures et il y a les hélicoptères, les hélicoptères qui sont tirés par la voiture. Et la voiture elle fait un dérapage et les hélicoptères ils tombent par terre, ça fait boum. Et ensuite il est plus loin, il est caché dans la montagne, il regarde avec les jumelles. Il fait je t'ai bien eu depuis le début. Et oui, c'était moi en fait le méchant. Tu sais c'est vraiment c'est genre et tu regardes ça, la mâchoire tente et tu fais comme ça, bah, je me reprends un Ferrero Rocher.
Tu sais, c'est un film qui te dit tu te souviens ce méchant dans le 5? Bah non, tout le monde l'a oublié.
Mais
en fait, c'est le fils qui vient se venger. Mais personne
mais
se souvient du 5.
On se souvient pas, avance dans l'histoire.
Ok, très bien.
C'est voilà. Mais je
Fast
regarde
10.
Fast 10, ouais, grosse 10. Enfin, là, ça va.
Moi, je veux vos flops à vous aussi.
Ah oui, ouais.
Moi, je crois que mon flop 1, c'était peut-être Saw 10 ou peut-être c'était le nouveau Exorcisme.
Ouf, je l'ai vu avec Flo.
Catastrophe.
Horrible.
Catastrophe.
Bah ça, c'est notre flop
avec les deux petites là.
Moi, ouais. C'est acide. Je m'en fous. Hein.
Ah ouais, quand même.
Ouais, toi, tu peux le dire, vas-y.
J'ai pas vu, mais j'ai flop.
Flop, c'est acide.
On l'a vu,
on l'a vu
acide, Jess.
Ouais.
C'est.
Rien.
Ah ouais, on l'a vu.
T'avais vu le coup,
ouais,
mais
ouais, rien à sauver. Rien à sauver.
Moi, je suis pas d'accord de rien à sauver. Non, moi, je suis pas d'accord.
T'étais furibard.
Bah, je l'avais vu à Cannes et je me suis dit non, je devais être fatiguée. Je suis retournée le voir en salle et je suis sortie.
T'étais bien furibard.
Ouais, non, ça me. On doit s'appliquer, justement, merci. On doit s'appliquer quand on fait du cinéma de genre en France, bordel. Genre, on fait pas genre, oh là là, elles font et on met un doliprane effervescent dans l'eau pour faire un effet spécial. Ça marche pas.
Oh là là, cette scène, tout le monde en parle.
J'ai l'impression qu'on devrait faire un podcast ensemble sur juste les films qu'on a détestés.
Oui, oui,
franchement,
tu m'as l'air, ça te prend bien.
Elle a un flop 2, qui a vraiment nous a déchiré dans ce podcast.
Attention,
c'est Babylone.
C'est Babylone.
Alors, qui est pour qui?
Bah, moi, j'adore et elle déteste.
Ah non, c'est quand même. Moi, j'ai pas
regarde les affiches chez moi, genre c'est Brigadoon, c'est Fred Astaire, c'est genre la vraie comédie musicale.
Vraie comédie. Il l'a jamais présenté comme une comédie musicale, si.
Non, mais il dit qu'il est meilleur que Chantons sous la pluie au bout d'un moment.
Toi, ton côté mélomane, il t'énerve son côté mélomane.
Moi, c'est mon. Ouais, on fera un autre podcast ensemble.
Je vais écouter ça.
Et sachez qu'Alexis avait aussi mis Astérix et Obélix. Voilà.
Mais il avait mis Babylone. Ah,
normal, non? Enfin, je sais pas, il y a un débat vraiment sur.
Personne parle, on est là.
Ces gens tiennent à leur carrière, contrairement à nous, visiblement, on s'en bat un peu les couilles. Alors...
Ouais, bah Guillaume Canet aussi s'en bat les couilles de sa carrière. À partir de là.
Il y a un ADN commun entre vous dans le flop là. Il y a un personnage qui revient.
Un petit grief. Non, je voulais qu'on termine ce podcast par un truc qu'on a fait cet été qui a beaucoup marché, qui est on a fait une espèce de série d'été où on revenait sur nos souvenirs cinéphiles, etc. Et on a fait un petit jeu où on a
chacun.
Jeu de la honte. On a mis chacun dans un petit papier, donc c'était tout un système, mais là on va pas le faire comme ça, où on avait mis des films qu'on n'avait pas vus, mais on avait un peu fait genre aux gens qu'on l'avait vu. Et qu'on avait honte de pas avoir vu.
Je fais ça tous les jours, moi.
Est-ce que vous avez des films où vous avez un peu honte
De pas les avoir vus.
Tu vois, je peux le dire, hein, tout à l'heure, on a cité 2-3 films dans tes références là.
Ouais.
Que j'ai pas
mais,
vu.
Mais tu sais que moi, j'ai arrêté avec ça parce que en
mais
interview.
C'est bien, moi je suis d'accord, il faut pas avoir honte de pas
non,
avoir
mais il y a un moment si où en voulez, tant que réel, c'est pire
je,
que
je vous donne ceux qui ont été donnés à la dernière interview qu'on avait faite. On avait fait Monier Chokri et Magali Lépine Blondeau pour Simple comme Sylvain.
Ah, j'ai adoré ce film. Ouais, bah, c'est mon numéro. Partie d'un de mes top.
C'est mon numéro 1. Voilà.
C'est vrai, j'ai adoré.
Bah, Monier Chokri, elle a jamais vu Star Wars.
Ah ouais, même ouais, moi
mais
non plus.
Par
moi,
manque et, d'intérêt si ou...
Et son actrice, Magali Lépine Blondeau, elle a jamais vu Retour vers le futur.
Moi non plus.
Mm-hmm. Voilà.
Bah, mais moi, j'ai plus honte dans les trucs vraiment de... c'est important pour ta culture cinéma. En tant que réal, t'as quand même ce truc-là où... T'es obligé d'avoir vu, Laurence d'Arabie, j'ai pas vu.
Ouais.
Ça, ne pas avoir vu ça, il y a un truc de, attends, excuse-moi, tu fais du cinéma, t'as pas vu Laurence d'Arabie, et je suis là,
Tu penses vraiment que c'est devenu indispensable?
Moi, maintenant, c'est bon, j'assume, je le dis tout le temps, j'avoue, j'ai passé plus de temps à faire des trucs
qu'à
en mater. Vraiment. Parce que, encore une fois, pour moi, aller dans une salle, c'était un vrai événement. Fallait prendre le RER, le machin. Ouais. Ça coûte 15 balles, plus tu prends un domac, plus machin, t'invites un pote, j'en sais rien. C'est beaucoup. Donc, je me déplaçais pour des trucs qui vraiment m'emmenaient. Et il n'y en a pas tant que ça. Donc, je manque de curiosité, mais j'essaie d'améliorer ça maintenant. Ça y est, quoi. J'essaie de mater des trucs, quoi.
Mais regarde pas Laurence d'Arabie sur ton iPhone, juste.
Non, mais non, justement, mais il y a ça aussi. Il y a que tout le monde me dit oui, mais si tu le mates, mate-le vraiment en salle, le truc remasterisé à donf et tout. J'ai et en plus, j'en ai envie.
Moi, non.
Moi, j'ai pas vu Scarface.
Eh, mais alors, c'est bon, là, on est tous pareils.
Pas mal.
Non, mais moi,
ça, c'est un bon.
Pendant longtemps, j'ai culpabilisé de pas. Moi, je viens d'un milieu où vraiment, à part juste ma grand-mère qui aimait bien mater des films et tout ça, mais à la maison, et de temps en temps, on allait au ciné et tout, il n'y a pas un truc de cinéphilie chez moi. Il n'y a jamais eu ça. J'ai commencé même moi par hasard dans le cinéma et tout, et pendant longtemps j'ai culpabilisé de pas avoir la culture qu'il fallait, de pas avoir vu les classiques et tout, genre pardon, moi j'ai vu des trucs qui sont classiques pour moi qui le sont pas du tout pour vous dans le cinéma, tu vois,
genre
est-ce que j'ai
mon ami
genre,
robot.
Non, franchement, j'allais y venir. Un des trucs qui m'a fait surkiffer avec Sébastien quand je l'ai rencontré, c'est qu'il avait qu'il pensait comme ça, comme moi en fait. Et quand je lui ai demandé son film préféré, c'était le même que le mien, et c'est Gladiator.
Ouais.
Et j'étais en mode et il y a quoi, genre en vrai ça tue.
Ouais, parce que c'est une vraie merde ce film. Donc t'as bien raison, c'est une vraie merde. Tout le monde le dit. C'est pas comme si c'était
énorme film.
Non mais en vrai, tu vois,
à dire Gladiator sur côté. Comment c'est avoir ce discours là?
Pardon.
Comment c'est avoir ce discours là chez les cinéphiles, notamment une personne comme Sébastien
et Sophia pour répondre.
Non, attends. Prends un micro, on va se régler.
Surcoté.
Un peu surcoté, ouais.
Un peu, il a tout de suite.
Non, mais c'est un peu surcoté.
Mais je comprends ce que tu veux dire, Sophia. Chacun sa culture, chacun ses références.
Chacun son avis, chacun ses rêves. Et on devrait pas avoir honte.
Ouais, moi j'adore Scarface. Il y a plein de gens qui diraient Scarface surcoté. Ok.
Et du coup, moi je me suis forcée pendant un moment à regarder un peu les films à l'ancienne comme ça, les Scarface, les films de gangsters et tout, machin, dont tout le monde parlait et tout. Et en fait, il y a un truc où je les mettais juste parce que je me disais, il faut que je les ai vus. Et du coup, j'étais pas dans le truc de kiffer et tout. Il y en a plein que j'ai vu, j'ai fait surcoté fort. Et genre tu vois, je sais pas, je préfère genre rencontrer un réal que je trouve hyper inspirant, ou un acteur avec qui je vais trop kiffer jouer, qui va me dire mais mate ce film machin et tout, et là je vais le regarder, je vais faire j'avoue, banger classique fort et tout, mais pas j'aime pas me dire genre tout le monde a vu ce truc là, il faut que je l'ai vu et machin. Après je suis déçu comme Barbie, putain.
La colère est là.
Moi, toi, j'ai quasiment tout un réal là, c'est l'autre là qui met tout en symétrie là.
Wes Anderson.
Ah ouais, il me sort par les yeux.
Ah non,
si,
pas, okay.
Bien évidemment, j'en ai vu, mais tu vois, par exemple, le dernier dans le désert, frère.
Ouais.
Tu vois la bande annonce,
j'adore.
Tu fais. Mais allez, suffit, gars. Suffit.
Il suffit.
Il suffit, gars. On a compris. Passe à autre chose, gars. C'est bon. C'est pas. En plus, ça drop trop. Ça name drop trop. T'es genre, ils sont pareils, ils sont 27.
T'as tourné avec
du
pieu, hein.
Ouais, mais attends. Mais non,
en mode name drop, il se pose là, le gars. C'est quoi le concept du film? On s'en fout.
Son dernier film,
regarde qui il y a.
Son dernier film, il y en a à peine 3. Il y en a 3.
Qui joue le même personnage.
Mais ouais, au début, j'en ai regardé un ou deux, je fais d'accord. Et après, je fais non, mais gars, c'est bon, arrête. Ton truc de désert et tout, ça donne tout sauf envie. Tout sauf envie, c'est juste
c'est
les blazes et tout.
City,
ouais, c'est ça.
Ça m'a pas. Ça me. Tu vois, ça me. Ça me touche pas
c'est
du
formidable.
Tout, mais non, c'est pas formidable.
Mais tu l'as vu
la culture.
Oui,
chacun.
Non.
Non, pas vu, voilà.
Parce que t'avais pas envie de le voir, tu l'as pas
vu. Il a fait la bande annonce.
Mais parce qu'on connaît
non,
la chanson.
Non, c'est pas formidable, mais je l'ai pas vu.
On connaît la chanson, gars.
Mais
on connaît, je sais déjà.
Mais donc, c'est quoi ton film de la honte à toi?
C'est lui, mon gars de la. Je fais genre, je fais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait,
mais comme t'aimes pas, c'est pas honteux. Est-ce que ce serait un truc où tu fais genre d'avoir aimé, machin?
Genre un classique que t'as pas vu, mais.
Un gros classique. Non, il faut
genre nous autour de la table il y a quand même quelqu'un qui avait pas vu Taxi Driver, tu vois.
Ah oui.
Ou Apocalypse Now.
Ou Apocalypse Now.
Si, ça j'ai vu.
Ouais, mais tu vois, nous, en fait, il y a vraiment une différence entre avoir honte de pas avoir vu des classiques, parce que ça fait partie de ta formation, et de pas avoir vu des trucs énormes, entre guillemets,
oui,
que
oui,
tout le
oui,
monde
oui.
a
vu.
Ah, bah,
j'ai pas vu Serpico.
Alors, c'est pas méga honteux, mais tu vas adorer.
Non, c'est pas honteux.
C'est pas honteux, mais
c'est
quand même.
C'est quand même
un mec avec Al Pacino.
C'est la première fois de ma vie que j'entends ça.
C'est l'histoire d'un des premiers flics à avoir dénoncé la corruption dans les années 70 à New York, porté par Al Pacino. C'est un des plus grands films de Sidney Lumet.
Là, j'ai honte. Là, j'ai un petit.
Je préfère Une Après-Midi de Chien, mais.
Là, j'ai un peu honte.
Petite montée de
mais
j'arrive
c'est pas si honteux que ça.
Ah ouais.
Non, c'est pas si
Aga,
honteux.
C'est pas
j'ai
honteux.
Pas vu Jurassic Park. Non, c'est
non,
faux.
Bah,
non, tu bluffes.
Le Seigneur des Anneaux.
T'en as pas des comme ça
non,
Harry
attends.
Potter, t'as pas vu
j'ai
je
pas
crois.
Vu Harry Potter, moi
non,
je suis
pas vu, j'ai pas vu tous les Harry Potter, ça c'est sûr.
Tu as pas
oh,
tous
t'as
vu
pas vu tous les Harry Potter
ouais.
Et genre, on se parle,
j'ai
non
dû...
Genre, on joue à Mario Kart
c'est
ensemble, on est
de
Harry Potter.
Cinéphile,
j'ai,
en
dû
fait.
En sauter, j'ai dû en sauter un sur la fin parce que ça c'est pareil, je vois pas l'intérêt.
Tu parles pas des Animaux Fantastiques.
Oh putain, tu me fais mal.
Non,
les vrais Harry Potter.
Ouais, un bâton des sorts.
Ils battent le méchant à la fin.
Ouais.
Et ils gagnent. Les gentils gagnent.
J'étais trop grand, j'ai pas.
J'ai vu aucun Marvel, moi, je crois.
Aucun.
Je suis assez sur les Marvel. Je suis vraiment horrible. J'ai vu Sam Raimi.
Ça,
que
c'est
respecte.
Pas grave, t'as raison.
Mais après, je crois.
Et
j'ai vu
Spider-Man quand même.
Un... Ouais, mais
oui,
de Sam Raimi.
Ouais.
Après, j'ai vu un Thor, je crois, mais par hasard. Et Avengers, j'ai
Thor,
jamais
horrible.
Rien vu. Je sais.
T'inquiète pas, tu rateras rien.
Ah ouais, je comprends pas ces trucs.
Ça dépend.
Ils vont. Si, Gardien de la Galaxie, j'ai vu.
Ouais. Ça, c'est pas mal.
Gardien,
ouais.
c'est
parce que
trop
c'est
bien.
James Gunn.
Ouais, ça, c'était cool.
Les Gardiens, c'est trop, trop bien. C'est vraiment un des rares trucs que. Ouais, ok, je peux même payer pour aller le revoir. Genre, y'a pas de soucis.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est
et
trop
Harry
bien.
Potter.
Autant
et Harry Potter.
Le vent, je crois. Je crois que je l'ai pas vu.
De quoi?
C'est un classique, ça, quand même.
Ça, c'est un classique, ok.
Autant en
c'est avec Brad. Ouais. C'est avec Brad Pitt?
Non.
Non, c'est pas lui. Mais il y en a un autre où ça ressemble.
Avec les gens d'automne ou mes
voilà,
couilles.
Voilà.
Tu t'es dit il y a des feuilles, il y a du vent.
Oui, mec, il se passe tout le
c'est
temps ça dans mon
cerveau.
C'est
mon père qui dans le jardin qui met les.
C'est exactement ça non, qui se passe. Oui, voilà.
Ouais.
C'est une autre
mais
époque.
C'est exactement ça qui se passe dans mon cerveau. Il y a un truc avec des feuilles, du vent.
Oui, American Beauty, les pétales de rose là.
Des grands
c'est
espaces.
C'est tout ça. Je mets ça dans le même.
T'inquiète, Jérôme, tu n'es pas le seul à pas avoir vu autant n'importe le vent. Bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous trois d'être venus. Vermine qui est donc sorti le 27 décembre, mais qui est
déjà
encore en
200
salle.
000 entrées, 250 000. Alors
en
on parle.
Vrai, je pense qu'à l'heure où on parle, il est à plus d'une centaine.
Ah,
mais
on
je
peut
veux,
faire
on
un jeu d'estimer à
on
combien
peut faire
on est.
Okay.
Non, moi je fais pas ça.
J'ai plus envie de, j'ai plus envie de rire. je veux pas nous mettre un.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
Ben franchement, on en a parlé tout à l'heure, quoi. C'est même pas que à moi, parce que on a de la chance en tant que réalisateur. Ces films-là, il me faut un adoubement entre guillemets de la profession critique et artistique.
Ouais.
Et à partir de là, je peux enchaîner. On l'a vu, La Nuée, il fait 40 000 entrées. Derrière, il fait un film qui coûte 12 millions. Donc il y a un
c'est
truc
vrai.
Un peu comme ça. Mais je pense que c'est plus globalement, alors en toute humilité, hein, je me dis pas, je représente le cinéma, loin de là. Mais qu'il y ait plus de films comme ça,
okay.
Et ce serait que ce film-là fasse. Quelques entrées, je dis pas un million, mais que du coup les producteurs et les distributeurs et le CNC et compagnie se disent bon ben les gars,
okay.
Parce que nous, en tout cas, on connaît beaucoup de réalisateurs et d'auteurs
qui aimeraient
énormément de propositions bien bien vénères qui peuvent être très très cool quoi. Et j'aimerais bien voir ça moi en tout cas.
Sophia, toi, cette année, on va te revoir au cinéma, je crois, dans le Jérémy Clapin, c'est ça?
Oui, exactement, Jérémy Clapin, et j'ai joué dans une série OCS aussi de Hervé Annemar.
Trop bien.
Voilà.
Et toi, Jérôme,
moi, je suis mis spectacle.
À l'heure où vous nous écoutez, et je crois qu'il n'y a plus qu'une date au Trianon et après, il va dormir pendant 3 semaines.
Tu vas plus avoir de voix, voilà.
T'as Dali aussi.
J'ai Dali, mais c'est une toute toute petite scène qui,
ouais,
qui
mais
sort
qui
en février,
vaut le coup,
je crois.
Hein,
ouais, qui
imagine,
vaut le coup.
Parce que les photos que
tu
m'avais envoyées étaient
trop
pas possible.
Ah merde, j'ai raté ça.
Ouais, bah il faudra aller en février pour voir Dali. Et après, moi de l'écrit, un peu de l'écriture et sans doute des castings pour faire de la fiction.
Ah, on te voit aussi chez Flo. Nous les Leroy.
Dans Nous les Leroy, dans Nous les Leroy, exactement. En avril, ouais, ouais.
Donc, très voilà. Beau film, Petite Madeleine, j'aime bien dire
exactement.
Ça. Une petite Madeleine toute douce, bien
ah,
chaude.
Mais pas celle au citron montré, parce que c'est jamais
non,
compris
non,
ceux qui mettent du citron dans les Madeleines, ces enculés.
Toute douce.
Mais, Madeleine, celle de Florent Bernard, elle est sans citron.
Sans citron.
Voilà.
Ah, yeah, c'est un film qui fait du bien, ouais.
Et moi, un peu comme
Dieu
ça, ouais.
Sait que je suis pas trop sensible à ce type de film, mais lui, il m'a attrapé le flow.
Bon bah écoutez, merci beaucoup d'être venu.
Merci,
merci
à vous, c'était trop bien là, le petit jeu là de la fin là, ça aurait pu durer
ouais, très
une heure.
Très longtemps, très très bien.
Ouais, en fait,
ça aurait
j'aime
pu
bien.
Durer bien longtemps
ouais. Ouais, au début je me suis dit ouais j'ai que deux
on
heures. En fait là le petit jeu
ça,
comme ça je fais mais alors toi c'est quoi celui du moyen que tu trouves un peu moyen mais un peu bien mais en même temps pas si bien. Moi j'aime bien, j'aime
pas
bien.
Dire, on va
le micro, on va pouvoir parler du film.
On va
grouper les vrais films en micro quoi.
Ça c'est très bien.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour un épisode du Patrimoine. Et vous pouvez aussi écouter notre épisode de rentrée et aller voir Vermine en salle, évidemment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à bientôt.
Merci pour l'invitation.
Ciao.
Salut.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.